Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, un petit écho pour démarrer la semaine, ça fait toujours plaisir. Voilà, tout va bien, j'espère que le son est rétabli chez vous également. Très heureux de vous retrouver pour Soir Info jusqu'à minuit. On discute, on débat de tout ce qui fait l'actualité au sommaire, notamment ce soir, deux visions de l'immigration pour une seule et même France. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se sont épanchés dans la presse sur l'idée qu'ils se font de l'immigration. Et Éric Zemmour accuse Emmanuel Macron de vouloir faire de la France un pays du tiers-monde. Réaction relativement prévisible de la part du leader de Reconquête, mais le chef de l'État donne-t-il le bâton pour se faire battre ? Discussion à suivre. Les Français se préparent aux coupures d'électricité potentiellement annoncées pour le mois de janvier s'il fait très froid. Quel serait l'impact de ces coupures sur les appareils, sur la chaîne du froid ? Comment va être prise la décision de couper le courant ? Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé ? Le débat, les réponses à suivre également ce soir. Et puis, la 9e vague de Covid-19, elle est là. Faut-il réintroduire le masque obligatoire dans les transports ? Jusqu'à présent, le gouvernement s'est refusé à imposer toute contrainte sur le sujet, malgré le rebond épidémique couplé aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Mais les autorités commencent à le suggérer de plus en plus. Le retour des restrictions n'est-il qu'une question de jour ? Là aussi, nous en discuterons dans un instant avec Jean-Sébastien Ferjou, qui me fait la surprise d'arriver en plein sommaire. Bonsoir, cher Jean-Sébastien, directeur de la publication Atlantico. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir. Alexandre Devecchio est parmi nous également, de rédacteur en chef au Figaro, évidemment. J'oublie votre titre alors que vous passez votre vie avec moi. C'est quand même assez fou. Philippe Guibert est là, enseignant, consultant, merci d'être là. Karim Abrik, évidemment, comme chaque soir de la rédaction de CNews, tout comme Yohann Usaï du service politique. J'ai gardé, j'allais dire le meilleur pour la fin, je ne voudrais pas offenser les autres, mais Fabien Lecoeuvre nous fait un grand plaisir d'être présent, grand spécialiste de la chanson française. Pourquoi Fabien est là ? Parce qu'après le rappel de l'actualité d'Isabelle Piboulot, on va évidemment rendre hommage à un certain Johnny Hallyday. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. L'idole des Français nous quittait. On y revient donc avec vous, Fabien, dans une poignée de secondes. Mais d'abord, comme chaque soir à la même heure, il est 22h précise. Isabelle Piboulot, bonsoir.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, le camp des mille, ce furent les crimes de l'État français. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. En déplacement dans les Bouches-du-Rhône, il s'est exprimé à l'occasion du 10e anniversaire de l'inauguration d'un mémorial sur le site. Entre 1939 et 1942, 10 000 prisonniers ont été retenus dans ce camp d'internement et de déportation. Je vous propose d'écouter le président de la République.
Le régime de la collaboration continue, malgré tout, de recruter des adorateurs et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer.
Cyberattaque à l'hôpital de Versailles. Les hackers réclament une rançon dont le montant n'est pas encore connu. Depuis samedi soir, le piratage perturbe fortement le centre hospitalier qui fonctionne au ralenti. L'opération semble de même nature que l'attaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne ciblée le 22 août dernier. Le ministre de la Santé dénonce une attaque terroriste. Écoutez.
L'hôpital a subi une attaque terroriste, hein, finalement, c'est ça, hein, cette cyberattaque, dans la nuit de samedi à dimanche. Une attaque qui était préparée, de toute évidence, qui a mis le système en grande difficulté. Pour l'instant, la situation, je ne vais pas dire qu'elle est totalement maîtrisée, mais en tout cas, la continuité, la sécurité des soins sont assurées à l'hôpital de Versailles.
Près de 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. Plus de 8000 plaintes ont été déposées en 2022, soit une hausse de 29% sur l'année. Et dans le détail, c'est le 15e arrondissement qui se trouve être le plus touché par les cambriolages. Enfin, dans l'actualité internationale, l'Ukraine face à de nouvelles frappes meurtrières de missiles russes. Conséquence, les coupures d'eau et de courant persistent, laissant les civils dans l'obscurité et le froid. L'électricité va être coupée en urgence dans tout le pays. D'après un opérateur électrique ukrainien, seules les infrastructures essentielles seront fournies en priorité.
Cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, les fans sont toujours inconsolables et sa mémoire est intacte. On en parle de longues minutes avec Fabien Lecoeuvre dans une poignée de secondes. À tout de suite. Bien sûr. Cinq ans déjà, Fabien Lecoeuvre. Ça passe vite, hein. J'ai l'impression, franchement, je vous dis la vérité, j'ai l'impression que c'était hier.
C'est vrai.
Le 5 décembre 2017, disparaissait le plus grand chanteur français de tous les temps, Johnny Hallyday. C'était une déflagration. Il y a 5 ans, jour pour jour, à la même heure, on était tous là, tétanisés. On ne comprenait pas ce qui se passait. Pendant plusieurs jours après sa mort, de nombreux hommages ont été rendus. L'émotion nationale était palpable. Encore aujourd'hui, les plus grands fans de Johnny sont absolument inconsolables. Je me suis posé cette question tout à l'heure. On va entendre Laetitia dans un instant qui communique beaucoup hein, ces derniers jours. On va entendre 2-3 extraits de Laetitia. Je me suis posé cette question. Franchement, je trouve que ces dernières 24 heures, là, depuis ce matin, je trouve que l'engouement n'est pas à la hauteur de ce qu'a été le décès de cette star nationale.
C'est normal.
Pourquoi ?
Parce que c'est qu'un cinquième anniversaire. Les grosses dates sont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On sait par contre que les choses vont être progressives d'année en année. On le voit sur les téléchargements, sur Spotify par exemple. Eh bien, vous avez les 50% des gens qui téléchargent ont plus de 50 ans, mais 29% ont moins, enfin entre 14 et 24 ans.
Ça veut dire qu'il y a une génération qui est en train de découvrir ou de redécouvrir Johnny Hallyday. Pourquoi ? Parce que les parents font le travail ?
Non, mais je crois qu'il y a... Oui, parce qu'ils ont les parents et les grands-parents. Ouais. C'est 57 ans de carrière, Johnny Hallyday. Donc ça a touché déjà au moins 4 générations. Et ce qui est intéressant, c'est 110 millions de disques vendus en France.
C'est l'homme de tous les records. On en parlait avant de démarrer l'émission. Quelques chiffres autour de Johnny Hallyday.
Les chiffres, c'est 75 disques d'or et de platine. C'est 3 disques de diamant, c'est-à-dire plus d'un million d'exemplaires, évidemment. C'est 10 victoires de la musique. On l'a oublié, mais c'est quand même des records. Il y a pas très peu d'artistes qui ont eu ses récompenses. C'est 800 auteurs qui ont travaillé pour lui, de 1960 jusqu'en 2017. On oublie de le rappeler. C'est 547 duos à la télévision avec 187 artistes. On ne se rend pas compte, mais il est rentré dans les mémoires collectives.
Combien de chansons il a enregistré, vous savez ça ?
1272 titres.
Ouais, il ne s'en souvenait pas de toutes. C'est impossible.
Non, parce que vous savez, les 15 dernières années, il y avait des prompteurs sur scène. Hein.
Oui, c'est vrai. Bon.
Mais ce qu'il faut rappeler, si on doit comparer aujourd'hui un artiste qui a une carrière de 30 ans, il a enregistré avec un album tous les 4 ans, voire tous les 2 ans, si ça va, ils sont à peu près entre 200 et 300 titres. Zazie, Florent Pagny, etc. Johnny, on est à 1272 titres. C'est colossal. Ses disques se vendaient dans 42 pays. Donc de langue francophone, bien sûr, mais c'est vraiment... Et après sa disparition, il y a encore des records.
C'est-à-dire ?
Parce qu'on est... l'année de sa disparition, ils ont vendu entre Universal et Warner, les deux maisons de disques majeures, en tout cas, de son catalogue, ils ont vendu 2 200 000 exemplaires. C'est du jamais vu quand on sait que le disque d'or aujourd'hui est à 50 000 exemplaires.
Il continue de faire recette et c'est Laetitia qui gère tout ça également. Je voudrais qu'on l'entende, Laetitia, elle réagit ces dernières heures. La veuve de Johnny Hallyday qui d'ailleurs, j'ai envie de dire, est la seule du clan Hallyday à vraiment médiatiquement porter le deuil et à communiquer. On écoute un premier extrait.
J'essaye d'honorer ma promesse que je lui ai faite de continuer à le faire vivre dans le cœur des hommes, de continuer à faire vivre son œuvre, son existence et que Johnny il est éternel, je serai plus là, qu'il sera toujours là lui. Non, la maison n'est pas encore vendue, mais j'ai du mal à y retourner. C'est un deuil difficile je prends mon temps dans ce deuil et j'apprends à vivre avec le deuil. Le départ de Johnny m'a vraiment appris ce qu'était le chagrin, le vrai chagrin, le deuil d'un homme qui n'était pas comme qu'un mari pour moi.
Évidemment qu'il est, il restera l'idole des jeunes, qu'il y a des fans, je le disais, inconsolables. Il y a des gens, j'ai entendu des reportages à la radio, notamment ce matin, de fans qui économisent depuis des années pour s'offrir un pèlerinage à Saint-Barth. Mais là où je me dis que l'image a peut-être été ternie, c'est l'aspect post-décès de Johnny Hallyday. Très vite, on a enchaîné sur des questions un peu malsaines, d'héritage. L'image a été ternie, cette guéguerre entre les enfants, Laetitia. D'ailleurs, comment ça s'est fini concrètement, cette histoire ? On le sait ?
Oui, bien sûr, on le sait. C'est Laetitia aujourd'hui qui gère tout le parti, tout le côté événementiel, en termes de droit, en termes de résonance, d'organisation, etc. Et elle fait ça plutôt pas mal, je trouve, sincèrement, parce que c'est un travail très difficile, ce que fait Laetitia, hein, parce qu'elle se prend des coups toute la journée. Hein.
Attention. Les relations avec les enfants de Johnny Hallyday, David, Laura.
Oui, puis on lui reproche toujours ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Donc c'est difficile. Elle a des rapports tout à fait cordiaux aussi bien avec les enfants de Laura et David. Ça se passe. Tout le monde s'est arrangé. Tout le monde s'est mis autour de la table parce qu'il y avait des impôts à payer, parce qu'il y a des droits de succession. Parce que donc à un moment donné, on est bien obligé de se retrouver, de se voir et de se parler. Je trouve qu'elle fait ça plutôt bien qu'une certaine distance. Vous parliez qu'il y a toujours cette période, ça tombe derrière un peu. Ouais. Vous avez ce sentiment qui est un vrai sentiment que l'on ressent pas forcément là où on se place, ça dépend. Mais c'est cette période de désamour. Vous savez, quand un artiste disparaît, on l'a vu chez Aznavour, chez Mike Brandt, chez des Clo-Clo, chez des grands artistes comme Montand, etc. C'est-à-dire tout de suite, les mois qui suivent, vous avez une telle surdose de Johnny que pouf, ça retombe derrière.
Sauf que la différence avec tous ces grands artistes que vous venez de citer, ce qu'on a vécu le 9 décembre 2017, c'est-à-dire trois jours après sa mort, et cette procession entre le funérarium du Mont Valérien et l'église de la Madeleine, c'est du jamais vu. Je voudrais qu'on revoie une courte séquence, parce que j'ai eu le privilège à l'époque de couvrir ce moment-là. J'étais sur une moto et caméra en main. Ouais, j'étais juste derrière le corbillard de Johnny Hallyday. On a retrouvé la séquence. Je voudrais vous en proposer juste une minute trente. Parce que vraiment, j'avais jamais revu les images. Je les ai revues tout à l'heure en me disant, mais c'est vrai qu'on avait couvert ça, on pourrait ressortir quelques images. Ouais. C'était du jamais vu. Et de les revoir, j'en ai eu vraiment des frissons. C'est regardez.
Vrai. Quelle est impressionnante cette foule. Regardez ces gens sur ces images placées tout autour de la place de l'Étoile. Seule l'embouchure qui mène finalement à l'avenue des Champs-Élysées est restée ouverte pour permettre au cortège de passer. Et nous voici désormais engagés sur la place de l'Étoile. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est un grand frisson qui est en train de nous parcourir. C'est un immense frisson qui est en train de nous parcourir parce que on entend ces gens qui crient Johnny, cette foule massée contre les barrières. C'est extrêmement émouvant. J'ose à peine imaginer ce qui se passe actuellement dans la tête de Laetitia, de tous les proches, de la famille, de tous les suiveurs qui sont là. Entendez cette foule qui crie à la gloire de Johnny Hallyday. Il est en retard, Johnny Hallyday. Il est en retard parce qu'il était prévu un petit peu plus tôt sur les Champs-Élysées, mais il le disait en interview il y a encore quelques années, je suis toujours en retard. Eh bien, il est fidèle à ses habitudes et les fans, eux aussi, sont fidèles puisqu'ils sont là. Ils sont là massés sur l'avenue des Champs-Élysées. Regardez ces gens, ces visages qui attendent là pour la plupart d'entre eux. Ils sont arrivés dans la nuit, très très tôt dans la matinée. Il faisait encore nuit, il fait extrêmement froid à Paris. Vous le savez, regardez cette perspective de l'avenue des Champs-Élysées. Incapable, je suis de quantifier le nombre de spectateurs qui sont ici, mais on parlera certainement ce soir de centaines de milliers, alors que vous voyez ces fleurs qui sont jetées, ces roses blanches ou rouges qui sont jetées sur le sol au passage du corbillard et de la voiture de Johnny Hallyday. On va tenter d'avancer un petit peu plus. Vous avez vu peut-être ces gerbes de fleurs, de roses qui sont lancées à même le sol sur le passage de Johnny Hallyday. C'est vraiment extrêmement émouvant. Je ne sais pas si avec ces images vous parvenez à vous rendre compte de l'émotion et de l'intensité du moment que nous sommes en train de vivre, mais c'est vraiment exceptionnel.
Ces images-là, on ne les a jamais vues avant, on ne les reverra jamais, pour un artiste hein, évidemment. Ouais. Et c'est en cela que je me dis, mais aujourd'hui c'est les 5 ans de sa mort et j'ai l'impression que ça passe un peu inaperçu.
Non mais parce que ça a tellement été un événement lorsqu'il est parti. Moi j'ai eu l'honneur en tout cas de commenter ses obsèques entre Jean-Pierre Pernaut et Anne-Claire Coudray. Et pendant 5 heures on voyait, c'est très émouvant. Et puis je voyais les gens pleurer parce que quand je suis parti de chez moi pour rejoindre les plateaux télé, je croisais plein de gens qui pleuraient, des bikers, des gens importants, les gens avaient les yeux rouges tellement l'émotion était forte. Il n'y a jamais eu autant de monde pour des obsèques en France depuis le 1er juin 1885, puisque c'était la mort de Victor Hugo.
Exactement.
Où il y avait 1 million de personnes, 2 millions de personnes, pardon, dans Paris. Donc, et c'est hallucinant. Et il y en a un par siècle, hein. Là, on l'a vu le 9 décembre 2017. On aura le prochain probablement en 2120, pourquoi pas. Mais c'est intéressant parce que c'est du jamais vu. Et en même temps, ça s'explique très bien.
Comment ?
Julien, 29 millions de personnes ont vu Johnny Hallyday sur scène dans sa carrière vivante. C'est exceptionnel. Pas un artiste rassemble ce public, en tout cas dans les salles. C'est impossible à refaire aujourd'hui. Quand un type fait 95 fois Bercy, c'est-à-dire c'est 1 million de spectateurs, s'il y a des résonances, parmi tous les Français, les 67 millions de Français, quand vous faites 266 fois l'Olympia.
Mais d'une certaine manière, on sait tous où on était le 5 décembre 2017. Exactement. Il y a des dates comme ça.
Exactement.
Alors, je ne sais pas si Karima Brik, parce qu'on a une Canadienne sur le plateau, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est vrai que, bon, nationalement, il n'y a rien à dire sur l'aura de Johnny Hallyday, mais au Canada francophone, au Québec, est-ce qu'il avait un retentissement particulier, Johnny?
Oui, il y avait quand même un écho. Je pense que pour certains Québécois, surtout, ça représentait quand même une icône de la chanson française. Est-ce qu'il avait le même lien d'amour que d'autres avec d'autres artistes? Bon, ça, je pourrais pas vous dire parce que je pense quand même les Québécois ont beaucoup, beaucoup aimé, par exemple, Charles Aznavour. Il venait régulièrement au Québec. Si je pense à Francis Cabrel, si je pense, même à Patrick Bruel. Mais Johnny Hallyday, même s'il n'y avait pas nécessairement cette présence aussi soutenu au Québec. On regardait ça de loin et c'était quand même une icône. C'était considéré comme une icône. Et je fais un peu le parallèle. C'est peut-être un peu comme notre Céline Dion, notre trésor national.
Mais bien sûr,
Québec, un rayonnement international. Donc, Johnny Hallyday, c'est un peu ça quand même. Ça reste quand même une légende.
Et puis, il avait cette résonance d'avoir été un pionnier dans les 60s, parce qu'il a été le premier à faire du rock dans les pays de langue francophone, à être connu en tout cas. Et traduire, c'est des adaptations de titres anglo-américain souvent,
oui.
Adapté en français. Et c'est lui qui, à partir de 1960, popularise d'une manière très importante en France et dans tous les pays de langue francophone. C'est la gloire de Johnny. Il a été pionnier. Et quand on a été le premier dans un exercice, évidemment, ça dure.
Pour les fans inconsidérés de Johnny Hallyday, la trace, elle est là et elle perdurera. Pour ceux qui l'aimaient, sans pour autant lui vouer un culte, est-ce que la trace, elle est toujours aussi présente, Philippe, par exemple?
Oui, c'est le patrimoine, c'est le monument du patrimoine populaire, de la culture populaire française. C'est vrai qu'il n'y a aucun autre chanteur qui doit réunir autant de générations et de...
Votre titre préféré de Johnny, c'est quoi?
Moi, j'aime bien Gabriel.
Comment vous la faites?
Oh, Gabriel.
C'est bien parce que vous avez choisi celle qui demande le moins d'efforts vocal.
Je la chante intérieurement quand Gabriel est en plateau.
C'est le point commun que vous avez avec Nicolas Sarkozy, puisque c'est le premier qu'il a acheté.
Ah,
absolument.
Information.
François Hollande, c'était...
Il est bon, Fabien, parce qu'il a toujours la petite anecdote qui va bien.
Non, c'est ça. François Hollande, c'était La belle histoire de Michel Fugain, et Nicolas Sarkozy, c'est Gabriel.
Et Emmanuel Macron?
Je viens l'aider. Alors lui, le premier album qu'il a acheté...
Non, arrêtez, mais là vous inventez.
Pas du tout, parce que j'ai l'occasion...
Mais d'où vous avez ces infos?
Eh bien, ça date du 11 mai 2016, puisque j'ai eu l'occasion de passer une soirée avec Emmanuel Macron et Brigitte, il n'était pas encore à l'Élysée.
D'accord.
Et je lui ai posé la question naturellement, parce qu'il connaît mes livres et mes dictionnaires.
Très bien sûr, comme tout le monde.
À ce moment-là...
D'ailleurs, j'ai pas montré la BD, autant pour moi, la BD qui est sortie il y a quelques jours, qui cartonne déjà.
Ouais.
Premier tome, Les tendres années, Johnny Hallyday.
Avec des dessins de mon ami Yann Sougéfis, qui est un grand dessinateur, qui a bien capté la lumière dans les yeux de Johnny pour la retraduire en dessin.
Aux éditions Signe. Et je vous laisse terminer sur Emmanuel Macron.
Il m'a avoué que les deux premiers albums qui ont marqué son enfance, son adolescence, son enfance, c'est Gang, l'album de Johnny Hallyday, le premier album qu'il a acheté de
Jean-Sébastien
Acquiesce. Et puis l'album de Michel Polnareff, Kamasutra, en 89.
Le préféré de Jean-Sébastien.
Et le président étant né finalement en 1977, en décembre 77, il suffit de calculer, c'est à partir entre, on va dire, 12, 14 ans, finalement on imprime les premières histoires, les premiers disques et les premières chansons.
C'est amusant.
Donc voilà, donc non.
On pourrait en parler des heures, mais le temps file. Comme Johnny qui a filé, malheureusement. Oui, je voudrais entendre Jean-Sébastien, parce que Jean-Sébastien, faire jouer la musique, c'est quand même une histoire d'amour. Votre chanson préférée de Johnny?
Je saurais pas vous dire, mais j'aime bien les albums, mais parce que ça renvoie à... Non, mais la même période.
Faut qu'il me fasse un tunnel. Je lui demande une chanson.
Et... par Jean-Jacques Goldman ou par Michel Berger, mais parce que
c'est... Les plus belles, moi je suis d'accord. Les plus belles chansons de Johnny.
C'est la chanson de nos vies, donc on le rattache à une
chanson. Je suis d'accord.
Goldman, c'est exceptionnel.
Alexandre, la préférée?
Les portes du pénitencier.
Oh, j'ai un cadeau pour vous. Lumna, on envoie? Ou pas?
C'est du pénitencier.
Bah si.
Non.
Alors ça, c'est typiquement une chanson américaine qui a été reprise. Hein. C'est,
Hugo Frey a fait les paroles françaises.
C'est Hugo Frey qu'on salue, d'ailleurs, qui va reprendre sa tournée des cathédrales, je crois, prochainement.
Il s'est cassé la main.
Bon, on lui souhaite un franc rétablissement. On garde le pénitencier, juste, je voudrais la meilleure chanson de Yuan Usaï.
Oh, je te promets.
Là, je te promets.
C'est la chanson préférée des Français.
C'est la chanson de...
Je te promets, Marie. Marie, et après, on a tout de suite l'envie. C'est les trois chansons que les Français retiennent dans la carrière de Johnny.
Et finalement, Yoann Usaï, il est comme les Français. Il aime Je te promets.
Ça fait un point.
sur certains points, effectivement. Merci Fabien. Merci Fabien. On aurait aimé continuer de chanter, mais on va être rattrapé par l'actualité beaucoup plus sérieuse également qui nous attend après la pause. Je remontre une dernière fois cette BD, Johnny Hallyday, Fabien Lecoeuvre et Yann Sougé-Fils. Les tendres années aux éditions du Signe. On se régale à lire les petits scénarios que vous nous avez proposés, puis les dessins de Yann Sougé-Fils.
J'ai dû apprendre à écrire de la BD parce que c'est un autre exercice.
Ah, bah oui. Mais tout s'apprend. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est pour Yohan. Mais... voilà. Allez-y, Yohan.
Pendant la pub. Je te pourrais.
Karima, j'ai pas demandé sa préférée.
J'aime beaucoup quelque chose de Tennessee.
Ah, moi aussi. On vous dit, c'est Michel Berger, ça.
Complètement.
Tennessee, hein, Michel Berger. C'est la plus belle.
C'est l'album Rock'n'Roll à Piquet.
Merci Fabien, vous revenez quand vous voulez. Et c'est un plaisir toujours de vous entendre nous rappeler ces anecdotes autour de la chanson française. Une pause, et puis on revient à une actualité bien terre à terre. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec nos invités, on poursuit les discussions et les débats de Soir Info jusqu'à minuit, mais avant cela, le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
Le pic de l'inflation n'est pas encore passé. La hausse des prix durera encore quelques mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances. Bruno Le Maire s'est exprimé ce matin au micro de France Inter. Et selon lui, les estimations prévoient une décrue de l'inflation vers la mi-2023, notamment grâce à la baisse des prix des matières premières. Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours du commerçant cannois privé de son emplacement au marché de la ville. Il lui a été retiré par la mairie en raison de l'agression commise par son fils de 14 ans sur une femme âgée de 89 ans. Fin novembre, le fils du commerçant et un autre mineur ont été reconnus coupables de vol accompagnés de violences. La sanction pénale sera prononcée le 28 juin. Et puis, direction Doha au Qatar, les quarts de finale du mondial se dessinent. Le Brésil a écrasé la Corée du Sud 4-1 en 8e. La Seleção a retrouvé sa star Neymar qui n'a pas semblé gêné par sa cheville. La Corée du Sud a réduit l'écart à la 76e minute, loin d'être suffisant. Prochaine rencontre pour le Brésil, ce sera vendredi face à la Croatie.
Merci beaucoup Isabelle. Impressionnante équipe brésilienne, hein, Philippe. Moi je m'attendais pas à un 4-1, hein, je vous dis franchement.
4 buts dans les premières mi-temps.
C'est les gros favoris avec les Français. Je sais pas si le tableau permet une finale France-Brésil, mais ce serait. Le tableau le permet ? Oh là là, bah alors là.
Surveiller l'Espagne aussi.
Le 18 décembre, je suis pas là. Allez, on est avec Alexandre.
C'est un dimanche.
Ah bon, bah tout va bien alors. Alexandre Devecchio, pardon, Jean-Sébastien Ferjou, Yohann Uzay, Karim Abric, Philippe Guibert. Deux visions de l'immigration pour une même France. Emmanuel Macron, pardonnez-moi, et Éric Zemmour se sont épanchés dans la presse sur l'idée qu'ils se font de l'immigration. Éric Zemmour accuse Emmanuel Macron de vouloir faire de la France un pays du tiers-monde. Alors on va remettre les choses dans leur contexte et soumettre ça à votre analyse. Dans la presse hier, le président de la République, alors qu'un débat, hein, Yohann Uzay, je parle sous votre contrôle sur l'immigration, avant la prochaine loi, la prochaine discussion de la loi sera au programme à l'Assemblée demain. Il s'exprime donc dans les colonnes du Parisien. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays. Et on en a toujours eu besoin pour notre économie. Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration? Il faut avoir l'honnêteté de le dire, la réponse et non. Alors on va entendre évidemment la réponse cinglante pour le coup d'Éric Zemmour dans un instant, mais je voudrais d'abord peut-être faire un petit tour de table et vous soumettre au propos du président de la République hier, Yohann, le en même temps finalement d'Emmanuel Macron, toujours présent, là sur le sujet de l'immigration. Il est où le courage politique du président de la République? Parce que qu'est-ce qu'il dit finalement dans ses propos?
Ce qui m'interroge beaucoup dans ses propos, c'est le fait finalement de toujours être à côté de ce qu'on lui reproche, en l'occurrence, de ce que ses adversaires politiques lui reprochent. D'ailleurs, peu de personnes en France prônent l'immigration zéro. Éric Zemmour veut une immigration zéro. Marine Le Pen a abandonné l'idée de l'immigration zéro depuis très longtemps. Elle veut la réduire drastiquement, mais elle ne prône pas l'immigration zéro. Or, dans l'esprit du président de la République, si on critique sa politique migratoire actuelle, c'est forcément qu'on est pour l'immigration zéro. Mais c'est pas du tout le cas. Ce que reprochent les adversaires politiques d'Emmanuel Macron, c'est la chose suivante. Ils disent, durant les 5 dernières années, donc en l'occurrence son premier quinquennat, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France. On a battu un record d'accueil des immigrés depuis 5 ans. C'est ça qui est reproché à Emmanuel Macron. Or, dans son esprit, on a l'impression que quand on formule cette critique, c'est forcément qu'on est pour une immigration zéro. On peut aussi se dire qu'il y a peut-être un juste milieu. Donc, en réalité, je trouve que cette formule et cette expression du président de la République, eh bien, c'est une manière pour lui, finalement, de dire qu'il ne voit pas bien où est le problème et que sa politique, finalement, est peut-être la bonne.
Mais déjà, intéressons-nous, Philippe Guibert, au postulat de départ.
Mmh. Et c'est ça.
La France, terre d'immigration, c'est dans notre ADN, oui ou non ?
Bah non.
Évidemment, pourquoi il dit ça ?
Mais parce qu'il
connaît l'histoire de France à partir de 1870 ?
Non, parce que c'est un économiste. Et c'est un économiste et donc il ne voit l'immigration que comme une question économique. C'est-à-dire que l'immigration, c'est la circulation des personnes qui va avec la circulation des biens, des capitaux, des services. Il n'a pas de profondeur historique là-dessus. L'immigration en France, tout le monde sait que c'est fin 19e. Et que c'est beaucoup d'immigration au cours du XXe siècle, là, avec différentes vagues, depuis l'entre-deux-guerres et même avant la Première Guerre mondiale. Donc, l'immigration, c'est effectivement une histoire contemporaine ou moderne, et pas une histoire qui remonte, qui va nous amener à Clovis ou à Vercingétorix. Donc, c'est une vision aussi très américaine. C'était dans la culture d'Emmanuel Macron, il me semble que la France, pour lui, devrait être une petite Amérique. Les États-Unis sont une terre d'immigration. Effectivement, leur ADN, c'est l'immigration. Oui, ils ont,
par définition.
Par
ce
définition,
pays s'est construit sur la...
Par origine, avec quelques drames qui en ont résulté, du reste, pour les Indiens notamment. Et donc voilà, c'est une vision philosophique qui est basée sur un imaginaire que je qualifierais presque d'américain, et sur une vision, une conception...
En même temps, il arrive de Washington, peut-être que ceci explique
ouais,
cela.
Oui, mais c'est plus profond chez Emmanuel Macron. Mmh. Je pense que c'est dans sa vision du monde, le libéralisme américain et finalement son fond philosophique. Et donc, il n'a pas conscience, il n'est pas entré dans la problématique de l'immigration telle qu'on peut la définir aujourd'hui dans le débat politique, entre ceux, effectivement, qui veulent la stopper complètement, la réduire, ou qui veulent un peu mieux la contrôler, ou qui veulent...
Juste plus de fermeté, tout simplement.
Juste un peu plus de fermeté. Et donc, il n'est pas rentré dans le débat. Et je trouve que c'est très révélateur de ses conceptions idéologiques et philosophiques qui sont fondamentalement libérales et qui ne lui donnent pas une profondeur de vue sur ce pays qu'est la France, qui n'est pas un pays libéral, qui est un pays... j'allais dire catholaïque ou monarcho-républicain, on peut le dire comme on veut, et qui a donc une histoire, et qui, par rapport à cette histoire, a une certaine attitude par rapport au sujet, notamment par exemple la religion, c'est tout faux, c'est un sujet neutre dans cette histoire, et dans l'histoire de l'immigration en particulier. Donc je trouve qu'il y a une limite dans l'approche d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas dans le sujet tel qu'il se pose pour les Français.
Il est imprécis, il est plein de bonnes intentions, mais il ne répond pas vraiment aux questions du réel qui préoccupent a priori les Français. Où est la fermeté dans ce discours du président de la République ?
Non, il n'y a pas de fermeté, mais je rejoins ce qui a été dit. C'est un contresens historique. Ça a été rappelé parce que l'immigration a commencé à partir des années 1850, mais surtout, ce n'était pas une immigration de même nature. Non. D'abord, c'était une immigration de travail. Il faut rappeler que les Italiens, par exemple, les trois quarts sont repartis. Ensuite, c'était une immigration essentiellement... européenne. Effectivement, ça a été sous-entendu par Philippe Guibert, où on a une immigration venue d'autres pays avec une autre religion, porteuse d'un autre modèle de civilisation. Donc ça ne crée pas, si vous voulez, les mêmes désordres. C'était plus simple pour intégrer. Donc tout ça, il en fait fi. Et ensuite, non seulement il n'y a pas de discours de fermeté, mais surtout il y a un discours que je trouve quasiment méprisant pour les immigrés eux-mêmes, qui montre qu'effectivement il est dans une vision purement économique, mais il les voit comme une simple force de travail. Ça veut dire quoi? Comme si on ne pouvait pas...
C'est le sens de la prochaine loi. Hein. C'est,
oui,
de,
c'est ça, pour les métiers,
de régulariser
les métiers en tension. Ouais. On pourrait aussi changer de modèle. Il y a des métiers où on pourrait augmenter les salaires. On voit par exemple les éboueurs. À partir du moment où on a augmenté les salaires, on voit qu'ils ont engagé des gens qui n'étaient plus forcément des immigrés. Donc il y a aussi un changement de modèle. Et donc là, il est dans le les marxistes vous diraient que l'immigration, c'est l'armée de réserve du grand capital. Et Emmanuel Macron, voilà, considère que c'est une manœuvre bon marché et qu'on peut faire venir des gens pour exercer des métiers, voilà, très mal payés. Et en plus, c'est mal connaître aussi la France contemporaine, je dirais, parce que souvent, les immigrés viennent, c'est vrai qu'ils exercent des métiers très durs, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup plus, deux fois plus d'immigrés au chômage que de Français. Donc ils les exercent un temps et ensuite ils bénéficient du système social. Donc je suis pas sûr que le gain économique pour la France soit aussi certain que le pense Emmanuel Macron.
Alors on parle de deux visions de l'immigration. On a lu et entendu celle d'Emmanuel Macron. Écoutez ce que répondait donc hier Éric Zemmour.
On ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde. Elle veut également devenir le tiers-monde. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui.
Bon, sur la forme, j'ai envie de dire, Jean-Sébastien Ferjou, on n'attendait pas autre chose d'Éric Zemmour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lequel des deux est le plus proche de la vérité.
Mais pour revenir sur ce qui était dit sur Emmanuel Macron, je pense qu'il est...
Non, mais
c'est,
pas,
vous allez voir... Mais...
C'est comme sur Johnny Hallyday.
Ouais, c'est pareil.
C'est deux albums en même temps.
Allez-y, allez-y.
Non, mais c'est, moi, je crois qu'il est pas, il fait pas, c'est pas sa vision philosophique qu'il exprimait hier sur l'immigration avec le fait qu'il partage plus ou moins sa
le président.
Il fait juste de la politique. Il fait juste de la politique. Il sait très bien qu'il n'a pas entre les mains les moyens de mieux contrôler les flux migratoires parce que c'est ce que Yohann Usaï disait. Il y a une réalité.
Donc il ne dit jamais ce qu'il pense.
Au tournant des années 2010. Il y a eu une accélération de l'immigration, pas seulement en France, dans beaucoup d'autres, ouais. Dans beaucoup d'autres pays. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas idiot. Hein. Il entend bien les revendications des Français. Il est capable de lire les sondages comme tout le monde. Simplement, il ne voit pas comment gérer la situation. Regardez le rapport de force qui s'est installé avec l'Italie. Pourquoi il ne sait pas la gérer? Il ne sait pas la gérer
sur l'affaire de l'Océan Viking.
Il faudrait en venir à remettre en cause profondément tout ce qui fait, pour le coup, son logiciel politique, mais pas tellement sur le fait qu'il soit plus ou moins libéral ou plus ou moins dans une vision anglo-saxonne. Dans sa vision de la société, il l'est vraisemblablement, hein, beaucoup plus proche d'un modèle communautariste ou multiculturel que du modèle traditionnel, plus laïque et républicain français. Mais c'est surtout qu'il ne sait pas comment gérer la hiérarchie des normes de droit européen, parce que vous le voyez bien avec l'Océan Viking. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine à le gérer? C'est le droit européen ou le fait qu'on est transposé du droit européen. Le fait qu'être un immigré en situation irrégulière en France ne soit plus un délit, c'était parce que c'était une transposition de droit européen. Donc il ne sait pas comment trancher ce verrou du droit européen, et il ne sait pas comment finalement trouver la bonne attitude pour arriver à contrôler ces flux. Parce que je pense que s'il le pouvait, il le ferait, quelle que soit sa vision philosophique.
Donc il ne dit rien.
Sa vision philosophique de... Ben non, moi je pense, comme le disait Yohann Usaï, il ne dit rien parce que précisément il essaye de faire de la politique, parce qu'il ne sait pas quoi dire et qu'il sait que s'il disait quelque chose... Après, la réponse d'Éric Zemmour, oui, enfin ça a été dit par tout le monde ici, évidemment, je veux dire, c'est une tarte à la crème. La France n'a pas toujours été une terre d'immigration. Il y a toujours eu des gens venus de l'étranger qui sont venus s'installer, ou sauf si on remonte à Lucie et qu'on part des migrations en Afrique, hein, si on veut. Mais est-ce que c'est une référence temporelle qui a du sens?
Aucune. Aucun. Ce que dit Éric Zemmour, c'est également le vivre ensemble, c'est impossible. Bon, on peut l'entendre, mais il ne le démontre pas non plus. C'est là qu'on peut... je ne sais pas si... Alors Karima, qui n'est pas encore intervenue, si vous voulez apporter un commentaire aussi.
Oui, ben moi je n'aime pas ce genre de discours qui généralise en fonction de la provenance. En fait, la question, c'est toujours la question du nombre par rapport à la capacité d'intégration, d'accueil, et aussi de ce vouloir de s'intégrer. J'allais dire, on parle parfois de devoir d'intégration, mais il y a ce vouloir d'intégration. Est-ce qu'on décide de venir dans un pays et de rejeter finalement les mœurs, les coutumes, de détester même le pays d'accueil, ou au contraire, on décide de s'installer quelque part et exactement de faire corps avec son nouveau pays, sans renier ses origines, sans renier son passé, mais en même temps d'embrasser cette nouvelle culture. Donc, ce discours un peu de généraliser. Et d'un autre côté, quand j'entends Emmanuel Macron qui parle de cet ADN de terre d'immigration, je suis d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou quand il dit, bon, de toujours, il y a eu des gens qui se sont déplacés, qui se sont installés, mais il est presque dans cette vision. Bon, aux États-Unis, on l'a dit, il y a ce côté de terre d'immigration, mais même au Canada, on va encore plus loin en parlant d'État post-national. Alors, est-ce qu'il est en train, un peu pour faire oublier ces échecs de politique migratoire, ben, de mettre finalement une espèce espèce de flou, ben c'est un peu, je pense, ce qu'il est en train de faire. Il fait diversion.
Philippe, sur, là encore, sur les propos d'Éric Zemmour, parce que c'est important d'apporter vraiment une analyse et des commentaires à ce qui est dit comme un fait établi sur le fait qu'on ne puisse pas comparer, par exemple, les immigrés européens du 19e, 20e siècle avec les immigrés maghrébins, africains d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, de ce fait, selon Éric Zemmour, la société n'est-elle plus homogène? Est-ce que vous entendez son discours?
Mais je crois qu'elle n'a jamais été homogène, hein, la société française.
Avec hein, les immigrés italiens, polonais, tranchées, du début du siècle, selon lui, si.
Ben, je crois que là, pour le coup, c'est aussi une erreur historique.
Pourquoi ?
Parce que vous savez que dans les tranchées, en 1914, les paysans qui venaient des différentes régions françaises ne parlaient pas tous le français. Ferdinand Baudrel, le grand historien, commence son livre sur l'identité de la France en disant « la France est diversité ». Et il n'était pas dans des discussions politiques, il voulait simplement dire que la France a construit son unité sur une extrême diversité. Donc dire que la France a été homogène tout le temps, je crois que c'est aussi une erreur historique. Mais, et donc je rejoins Karima, parce que ce qui est problématique dans ce que dit Éric Zemmour, c'est pas effectivement que les vagues d'immigration européenne et africaine, on va le dire comme ça vite, puisque c'est de ça dont on parle, ne soient pas identiques. Il est évident qu'il peut y avoir des différences anthropologiques plus importantes avec des immigrés qui viennent de cultures différentes de la nôtre. Mais en même temps, il faut dire tout de suite, si on veut être sérieux, réaliste, qu'on a des échecs de l'intégration dans ces générations d'immigration africaine. C'est une évidence, mais c'est une autre évidence aussi de dire qu'on a des réussites. On a des réussites. Il y a des gens qui viennent de l'immigration maghrébine ou africaine qui sont parfaitement intégrés en France.
Oui, mais il y a ce constat d'une société racialisée, de plus en plus communautarisée, que pointe du doigt Éric Zemmour,
alors,
et qui nous saute aux yeux à tous les uns
est-ce
les autres, qu'on adhère ou pas d'ailleurs à son discours. Alors,
juste d'une phrase.
Vous concluez, Philippe et Jean-Sébastien.
Je trouve que là, on mélange un autre problème que celui de l'islam et de l'islamisme en particulier. Parce qu'il y a une islamisation de certains quartiers, avec des replis sur des cultures extrêmement rigides, extrêmement réactionnaires au passage, notamment dans les relations hommes-femmes. Mm-hmm. Et je trouve que ça, c'est un autre sujet qui ne concerne pas que l'immigration, parce qu'après tout, dans ces quartiers, il y a des gens qui sont des personnes qui sont français depuis plusieurs générations et qui peuvent être tombés dans cette culture islamiste. Je trouve que c'est un autre sujet. Il y a des points de rencontre, mais ce n'est pas le même sujet. Mais dire que l'immigration, la généralisation sur l'immigration africaine et nord-africaine me paraît tout à fait abusive. Ne nions pas qu'il y ait des échecs dans l'intégration.
Le rabougrissement des cultures, l'augmentation des conflits, c'est une réalité statistique.
Oui,
ça a probablement à voir.
Le problème du développement des trafics de drogue, on peut estimer qu'il a par exemple un lien avec l'immigration. Puisque dans certains quartiers, c'est les quartiers avec des gens issus de l'immigration où ils se développent le plus, où ils diffusent dans les métropoles et les centres-villes et même dans les villes moyennes aujourd'hui. Mais est-ce que ça a un rapport avec la ghettoisation et le fait que la moitié des gens qui vivent dans ces quartiers sont à un niveau de pauvreté assez grand? Ou bien est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils sont d'origine africaine ou nord-africaine? On peut en discuter, le débat est compliqué. Hein.
Alors Jean-Sébastien, Karim Abrik, Alexandre Guillaume aussi, on continue le tour de table.
Je crois qu'on ne comprend pas grand-chose à l'immigration si on regarde que les immigrés. Parce que vous pouvez regarder les immigrés avec leurs qualités, les défauts qui viennent avec certains immigrés. Ou
donc
avec
c'est ni Éric Zemmour ni Emmanuel Macron n'ont compris le problème de l'immigration.
Qu'est-ce que la France aujourd'hui? Est-ce que la France est capable d'être émetteur de sens? Est-ce que la France sait qui elle est? Parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne risquez pas de toute façon d'intégrer les gens. Après, il y a de toute façon la question du nombre qu'évoquait Karima. Regardez, ça ne choque personne si on dit quand il y a beaucoup de Parisiens sur l'île-Dieu, sur l'île de Ré, ça change les équilibres sociologiques. Vous voyez bien qu'un milliardaire russe au Cap d'Antibes, ça peut être sympa, mais s'il n'y a plus que des milliardaires russes, ça change totalement les équilibres socio-économiques du Cap d'Antibes. Mais ça, on a le droit de le dire, parce que ça... Mais on n'aurait pas le droit
de suivre.
Mais ce que je veux vous dire, c'est quand il y a des riches qui arrivent, là, on dit... Enfin, on a le droit de dire, voire de s'en lamenter, c'est plus comme avant, regardez, on peut plus se loger là où on n'est plus chez nous, parce que justement, c'est des riches qui sont venus, et qui ont des moyens plus supérieurs. On a le droit de le dire dans ce sens-là, on n'a pas le droit de le dire quand ce sont des gens, justement, moins favorisés. Donc, il y a cette question du nombre, parce que tout flux de population modifie un équilibre, mais c'est une évidence absolue. Et regardez, même dans les pays qui sont des terres de migration, comme les États-Unis, vous voyez bien que le fait que les États-Unis, dans un certain nombre d'États, la majorité, les Blancs ne sont sont plus que la première des majorités, ça explique assez largement aussi l'évolution politique, et notamment le Trumpisme. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni aussi. Les chiffres sont sortis la semaine dernière de l'équivalent de l'INSEE pour le Royaume-Uni. En se projetant dans 50 ans, même chose, les Britanniques dits de souche ne seront plus la majorité. Et donc, vous
qu'est-ce qu'il faut faire ? Envoyer le signal que l'immigration n'est plus la bienvenue en France ?
Mais il faut avoir un débat déjà sur ce qu'on veut ou non. Mais effectivement, je pense que les Français l'ont déjà assez largement tranché. Mais puisque c'est tranché, derrière, la question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure.
C'est pas du tout ce que semble indiquer le futur projet de loi.
Mais qu'est-ce que
vous,
je veux dire, ça a à voir avec la souveraineté juridique de la France. On peut tourner autour de, enfin, du pot pendant des siècles. Ça a à voir avec la souveraineté juridique de la France. Et le fait qu'il y ait besoin, dans certaines professions, ou qu'il y ait de facto des gens qui travaillent en France, qui soient, ils peuvent être tout aussi bien d'ailleurs pour venir faire de la recherche. C'est pas que des pauvres gens qui viennent travailler dans une station-service. Hein. Mmh. Mais ça, c'est une réalité. Mais au bout du bout, il faudra avoir ce débat-là sur la souveraineté juridique de la France.
Johan, juste une précision là-dessus et Karima reprend.
Non, simplement pour dire que s'il y a bien une chose sur laquelle les Français ne sont pas entendus, c'est l'immigration. Parce qu'on peut avoir des débats. Il y a un débat demain à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin de débat pour savoir ce que veulent les Français. Les Français demandent en majorité une réduction assez importante de l'immigration. Ça, tous les sondages le montrent, quels que soient les instituts.
Oui. 60% depuis 15 ans, 60% oui. pensent qu'il y a trop d'immigrés.
Oui, exactement. Et ça augmente régulièrement.
C'est précisément ce que je vous dis. Donc les Français disent de manière constante, permanente, récurrente, qu'ils veulent moins d'immigration. Or, c'est ce que je vous disais au début de cette émission, durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu autant d'immigration. Donc ça montre une chose en réalité. Ça montre que dans ce pays, pas seulement dans ce pays d'ailleurs, au sein de l'Union européenne, disons, mais nous ne sommes pas capables de maîtriser l'immigration. Nous n'avons pas les moyens de le faire.
Parce que nous dépendons de Bruxelles.
Ça n'est pas qu'une question... Non, Bruxelles a bon dos.
Quand
quelque chose ne va pas dans ce pays, on dit c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de Bruxelles. Bon, l'Europe a une responsabilité, mais l'Europe, c'est nous, pardon. Les choix de l'Europe, ce sont les choix des dirigeants des pays de l'Union européenne. Bruxelles, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau en grande partie ici. Vous savez très bien que les grandes décisions se prennent dans ce contexte-là. Donc, on n'a pas les moyens, on n'a pas les armes, on ne peut pas maîtriser l'immigration.
Et
une partie de la classe politique et de nos dirigeants, quelque part, ont sans doute baissé les bras parce que le droit ne nous permet pas, on le voit, d'expulser aussi facilement qu'on le voudrait, parce que les frontières ne sont pas maîtrisées, parce que ça demanderait d'énormes moyens, etc.
C'est pour ça que je parle de Bruxelles.
Donc voilà, je vous dis que s'il y a bien un point sur lequel les Français ne sont pas entendus, c'est vraiment celui-là.
Dernier mot là-dessus, Karima, et je voudrais qu'on aborde un autre aspect de cette question d'immigration.
Oui, c'est ça, il y a une rupture entre la volonté des Français, des citoyens, et la réalité que leur donne leur politique. Et on est au 21e siècle, ça va être le grand défi des pays occidentaux, d'aujourd'hui, des pays européens particulièrement, absolument, parce qu'on a beau reprocher à l'Europe tellement de choses, n'empêche que c'est encore l'endroit où une grande portion de gens veulent encore s'installer. Donc c'est ça la réalité. Hein. On a beau se critiquer nous-mêmes, comme occidentaux, souvent, on va vouloir s'auto-flageller, mais ça reste encore une fois une destination de choix pour beaucoup de candidats à l'immigration. Et on est encore dans cette logique, je dirais en Europe, hein, on a du mal un peu avec la question des frontières. Effectivement, c'est complètement un logiciel qui est à revoir et des ententes aussi à revoir et le droit à revoir aussi, si on a le courage de le faire.
Très vite, oui, Johan, parce que je voudrais retourner vers Alexandre.
Parce qu'on parle de Bruxelles, on dit l'Europe, etc. Je vous rappelle que l'une des grandes promesses du Brexit, c'était de dire qu'on ne sera plus dans l'Union européenne, on va davantage maîtriser notre immigration. On ne sera plus dans l'Union européenne, il y aura moins d'immigration. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration que depuis le Brexit.
Donc
cette promesse n'a pas été tenue
mêmes,
en réalité.
Comment ça, pas les mêmes, mêmes.
Mais
pas les mêmes quoi?
Pas les mêmes immigrés. Avant le Brexit, il y avait énormément d'Européens qui s'étaient installés au Royaume-Uni, notamment des Polonais, des gens de l'Est.
Mais c'est plus l'immigration illégale qui n'a pas cessé, en fait.
Je parle de l'immigration illégale, en réalité.
Oui. Non, mais c'est très important, parce que justement, pour bien comprendre la clé du Brexit, justement, c'était parce qu'il y avait beaucoup de ces immigrés-là, mais qui étaient des immigrés qui étaient diplômés et qui venaient en concurrence directe avec les Britanniques.
Oui, parce que ce qu'on veut dire, c'est que si j'entends ce que dit Johan, c'est que la sortie de l'Europe, ça ne changerait rien en termes d'immigration illégale.
Au Royaume-Uni, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a maintenant plus d'immigrés extra-européens qui viennent. Et effectivement, les flux se sont renforcés, mais pourtant, les Britanniques ne considèrent plus que l'immigration est leur sujet premier de préoccupation. Mmh. Ce qui montre bien que derrière, il y a un sujet de contrôle de son destin et pardon, et peut-être de qui est directement en concurrence avec vous.
Je voudrais juste qu'on revienne un instant, Alexandre, sur la deuxième partie de la citation d'Emmanuel Macron. Quand il dit aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans l'immigration? Il faut avoir l'honnêteté de dire la réponse est non. Certains secteurs d'activité ne tourneraient pas sans immigrés. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, parce que les gens ne veulent plus faire ces activités, parce qu'ils ont d'autres solutions, peut-être également les aides sociales. Peut-être qu'il faut voir il faut voir la chose d'un autre prisme.
Moi, je pense que Jean-Sébastien Ferjou a raison. Il y a aussi la volonté de changer de modèle, un modèle qui a plus de sens. Est-ce qu'il faut avoir des bas salaires qui financent effectivement une protection sociale, plus qu'une protection sociale, une forme d'assistanat? Je pense que une partie
des Français... Mais il y a 50 ans, il n'y avait pas besoin de faire venir des gens de l'étranger pour faire tourner un restaurant.
Mais on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut changer de modèle. Il est dans un modèle économique...
Peut-être que c'est le modèle de la restauration aussi qu'il faut changer.
Oui, aussi.
Mais je parle de la restauration comme un exemple parmi tant d'autres, vous le savez, Philippe.
Je pense que le Brexit, au-delà de l'immigration, il y avait la question de l'immigration... de la mondialisation. Il y avait un certain nombre de personnes en Grande-Bretagne qui avaient le sentiment d'être flouées par la mondialisation, soit parce qu'il y a eu un phénomène de désindustrialisation massive, soit parce qu'ils étaient mis justement en concurrence déloyale avec des immigrés qui étaient payés très mal. Et on a vu, Johan Usaï le sait, qu'il y a eu des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs et que les salaires ont augmenté. Donc on peut changer de modèle. Et je trouve qu'un progressiste comme Emmanuel Macron, quelqu'un qui et du centre, mais qui se revendique du progrès, même de gauche, socialement, ne devrait pas tenir ce genre de discours. Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est prenons des esclaves. Je dis ça entre guillemets, mais...
Non, mais des pions.
Des pions, des exactement. Pions plutôt, des gens interchangeables. Effectivement,
c'est plus proche de la réalité,
comment vous voulez intégrer les gens en plus si vous en faites des pions? Donc, je pense qu'il faut arrêter avec cette logique économique déshumanisante. Elle est déshumanisante pour les immigrés, mais aussi pour tout le monde.
Mais l'accueil, de toute façon, est très négligé dans ce pays. C'est le parent pauvre de notre politique migratoire, si tant est qu'il y ait une politique migratoire dans ce pays, Philippe.
Oui, mais on revient à la vision économique totalement libérale d'Emmanuel Macron, qui est quand même un de ses fondamentaux. Il n'en a pas beaucoup. Il y a l'Europe, il y a le libéralisme économique. Moi, je voudrais quand même dire qu'on est... Le sujet de l'immigration...
Comme les autres, hein, les start-upers, comme moi, je suis moins de bouddhiste. Mais...
Oui, mais son discours libéral englobe tout ça. Mais les crises migratoires, elles sont devant nous. Hein. On en a... Parce que quand on regarde la situation de l'Afrique, la situation démographique...
L'explosion démographique...
La situation du réchauffement climatique qui accélère des crises alimentaires. C'est le cas en Érythrée, c'est pour ça qu'il y avait des Érythréens, excusez-moi, sur l'océan de Vikin il y a quelques semaines.
En fait, on n'a même pas vu les prémices de la vague migratoire qui pourrait déferler sur l'Europe ces prochaines années.
Donc on a eu la pandémie qui a ralenti un peu les vagues migratoires, mais la situation démographique, économique, alimentaire et politique, parce que l'Érythrée, c'est un autre bon exemple, c'est la guerre civile permanente. Et donc, il y a une incitation à partir pour ces pays extrêmement jeunes qui est très forte. Et il faudra qu'on fasse face à ces enjeux. Et je suis pas sûr qu'on ait les solutions.
Quoi qu'il arrive, parce que je vais vous dire, à travers cette proposition de loi, donc on se souvient, il y a quelques semaines, la présentation de Gérald Darmanin, les gentils et les méchants. Les méchants, on va réduire les recours pour les expulsions, et puis ça va aller beaucoup plus vite. Et puis les gentils, donc on va les régulariser sur des travaux en tension. Quoi qu'on en dise, on ne répond pas, le gouvernement et Emmanuel Macron ne répondent pas aux inquiétudes des Français avec cette histoire de métier en tension, parce que les inquiétudes, elles sont culturelles. Il est là le cœur du problème aujourd'hui, culturel, sécuritaire.
Il y a un sujet d'intégration, ça c'est une évidence absolue, et le fait que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne savons plus donner du sens ni être capables de définir qui nous sommes. Au Canada, quand vous devenez citoyen canadien, on vous demande de prêter serment, et vous avez intérêt à vraiment chanter l'hymne national et à répondre aux questions qui vous sont posées. Vous voyez bien qu'en France, ça n'est pas le cas de toute façon. Mais il y a un autre verrou intellectuel, parce que vous parliez de l'Afrique, mais nous ne savons pas comment nous comporter avec l'Afrique. Il y a tellement de culpabilité par rapport au passé colonial que nous ne savons pas comment nous comporter. La réalité, je vais vous dire, quand vous faites le bilan de l'aide au développement, c'est à peu près la même chose que les aides qu'on a mis dans la rénovation urbaine. Ça n'a produit aucun
en effet. Mais vraiment aucun, quand vous regardez sur les 40 dernières années, il y a des centaines de millions d'euros qui ont été engagés. Non, mais parce que nous sommes pris au piège. Nous sommes pris au piège. Nous ne savons pas comment nous positionner. Les Chinois ont beaucoup moins d'état d'âme, mais ils n'ont pas la même histoire que nous. Nous ne savons pas comment nous positionner, effectivement, en disant, bah oui, on vous donne de l'argent, mais on ne veut pas se substituer à vous, parce que ça serait un peu du néocolonialisme, etc. Mais on constate bien quand même qu'il y a beaucoup de corruption et que ce sont, dans un certain nombre de cas, des états faillis. Nous ne savons pas comment nous positionner par rapport à ça. Et aussi longtemps que nous resterons dans cette ambiguïté-là, on pourra continuer à jouer à se faire peur sur les vagues migratoires en provenance d'Afrique, parce que rien ne changera.
Justement, moi, je trouve que sur les vagues migratoires, j'ai du mal à accepter ce discours qui nous expliquerait qu'il n'y a rien à faire, que de toute manière, on va être submergé. Tout à l'heure, Karima disait que l'Europe faisait
Qu'est-ce
encore envie.
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Non, bah, je vais vous répondre. Mais Karima disait tout à l'heure que l'Europe faisait encore envie. Si demain, l'Europe devient un pays du tiers-monde, je parle pas ethniquement, je dis simplement, on voit bien qu'on se paupérise, est-ce que l'hôpital ne fonctionne plus, qu'il y a un certain nombre de
on
choses
qui ne fonctionnent pas. On parlera énergie dans 5 minutes.
Qui ne fonctionne plus dans le pays, qu'il y a du chômage, qu'il y a de l'insécurité, que ça ressemble, alors disons pas au tiers-monde, mais au Brésil. Enfin, si l'Europe se dégrade à ce point-là, ça n'aura plus d'intérêt, même pour les gens qui viennent de l'extérieur, de venir. Donc on voit bien que ce système, on peut pas le pousser...
On crève la dalle et qu'on joue sa peau.
Non, on peut pas le pousser au bout. On peut pas le pousser au bout.
Ces considérations que vous évoquez dans l'imaginaire collectif des gens qui font la démarche de venir en France, ça n'existe pas. Hein. C'est l'Eldorado.
Il y a un milliard d'Africains qui potentiellement veulent venir en France. Si vraiment.
Oui, mais le milliard d'Africains qui veut venir en France, il s'attend pas à dormir sous un pont porte de la Chapelle.
Mais si on accueille un milliard d'Africains, vous croyez que la France sera toujours la France et qu'on pourra les accueillir dignement? Donc, à un moment donné, on peut pas se satisfaire d'un discours, on ne peut rien faire, parce que ça veut dire la destruction, tout simplement, de l'Europe, et ça veut dire l'africanisation de l'Europe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous répondre. Jean-Sébastien Ferjou a dit que c'était un problème de souveraineté juridique. Je le crois. C'est un problème de message envoyé aussi au reste du monde. Donc je crois que si on veut envoyer un message, vu qu'il y a énormément de blocages et qu'Emmanuel Macron a du mal avec cette question, il devrait poser une question au peuple français, renvoyer la question au peuple français pour retrouver une forme de souveraineté. Je crois qu'il y a un problème juridique.
Un
référendum. Je pense que les juges seront moins enclins à mettre des bâtons dans les roues aux politiques s'il y a une décision souveraine du peuple français et une renégociation des traités.
Et du reste, vous mettez un garde-barrière devant chaque mètre carré de frontière.
Et du reste, le message pour le monde entier sera que l'Europe et la France ne sont plus prêts à accueillir le monde entier.
Mais Julien, il n'y a pas de garde-barrière qui empêche d'aller s'installer en Iran. Il n'y a pas de garde-barrière qui empêche d'aller s'installer en Chine ou en Russie. Et est-ce que les gens...
Sauf que ce ne sont pas des pays attractifs pour ceux qui veulent quitter le leur.
Vous venez de donner la réponse. La réponse ne sera jamais un mur, on l'a vu aux États-Unis, ça ne sera jamais ni un mur, ni un garde-barrière, ni des moyens pour tirer sur les gens. Ça sera le fait d'être perçu comme attractif ou non. Vous voyez bien que sur les 30 dernières années, où est-ce qu'il y a eu le plus de croissance économique et de création de richesses massive. C'est pas en Europe, c'est pas en France, c'est en Chine, c'est en Asie, et en Asie du Sud-Est. Est-ce que vous avez l'impression que les Africains se sont rués par millions? Regardez,
c'est
même en Asie du Sud-Est.
C'est un peu plus loin quand même. Hein. Oui. C'est un peu plus loin, il n'y a pas que la Méditerranée.
Aux États-Unis, il y a des océans à traverser aussi. Vous voyez bien que ce ne sont pas des modèles attractifs. Vous pouvez aller en Russie à pied. D'ailleurs, un certain nombre de migrants passent par la Russie puisqu'ils arrivent par la
bonne chose
maintenant, puisqu'ils passent par le Nord. Donc, quand vous avez vraiment l'intention d'aller quelque part, vous réussissez toujours à le faire. Vous ne pouvez pas partir d'Amérique du Sud non plus et aller à pied aux États-Unis. Hein. Il y a une jungle au Panama qui vous bloque le passage. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on le voit bien. C'est ce que Karima disait. Nous continuons à demeurer le modèle de démocratie libérale adossé à une économie de marché, continue à être un modèle attractif. C'est là que les gens veulent venir vivre. En revanche, ils sont aussi au courant, parce qu'ils sont au courant de la manière dont ça se passe en Chine. Tout le monde a des smartphones. Dans les villages africains, les batteries, vous les faites avec une batterie de voiture. Vous le rechargez avec une batterie de voiture. Ils savent ce qui se passe dans le monde. Donc s'ils comprennent que nous ne pouvons plus intégrer, ou que nous ne le souhaitons plus, ou un mélange des deux...
Si tu regardais le prochain débat sur l'énergie, ça va couper l'envie à beaucoup de gens, blague à part, mais...
Sur l'énergie, je croyais que vous parliez d'énergie, la radio.
Non, l'énergie est ce qui nous attend cet hiver. Vous vouliez dire un dernier mot, on avance.
Je pense que pour beaucoup de gens encore, ça représente l'Occident, la France, les pays tout autour. C'est la liberté, le filet social et l'accueil. Et sans barrière. C'est ça que ça représente. Donc c'est pour ça qu'on veut venir ici.
Et qu'est-ce qui va se dire demain dans ce débat?
Mais ce qu'on peut comprendre de leur point de vue.
Ah oui, l'art de brasser du vide demain à l'Assemblée, on est d'accord? Parce que c'est un débat sans vote, c'est vraiment du blabla.
Oui, non, mais c'est un débat qui, disons-le clairement, n'a aucune utilité. dans le sens où on connaît les positions de chacun, on connaît les problématiques liées à l'immigration, on en parle suffisamment ici. Les Français sont régulièrement sondés sur leurs intentions et leurs volontés, on le connaît également. Il n'y a pas de vote, alors le gouvernement présentera peut-être plus en détail le projet de loi qui sera présenté à partir du mois de janvier.
Même si on connaît un peu aussi.
Mais néanmoins, le gouvernement organise tous les ans un débat sans vote à l'Assemblée nationale. C'est une manière de dire qu'en fait, il traite le problème, qu'il s'en préoccupe, etc.
Ah oui,
mais
évidemment.
C'est de la communication gouvernementale en quelque sorte.
Vivement demain, il est 23h, l'actualité avec Isabelle Piboulot et on passe à un autre thème.
Dans l'affaire des bébés congelés à Bédouin dans le Vaucluse, d'après les autopsies, la mort des deux nouveau-nés n'est pas d'origine naturelle, assure la procureure d'Avignon. Les deux fillettes étaient bien viables après l'accouchement. Une mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Les corps ont été découverts jeudi dans un congélateur de son domicile. La ville de Strasbourg va attaquer l'État pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue. Face à la crise humanitaire, les moyens municipaux ne suffisent pas. La maire de Strasbourg s'est exprimée ce matin alors qu'un campement de migrants était sur le point d'être évacué. Elle lance donc un appel national aux élus et aux associations qui souhaitent se joindre à cette action. Cyberattaque à l'hôpital de Versailles. Les hackers réclament une rançon dont le montant n'est pas encore connu. Le ministre de la Santé dénonce une attaque terroriste. Depuis samedi soir, le piratage perturbe fortement le centre hospitalier qui fonctionne au ralenti. L'opération semble de même nature que l'attaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne ciblée le 22 août dernier. Et puis une semaine de négociations décisives s'ouvre à la SNCF avec des discussions sur les salaires et en ligne de mire les fêtes de fin d'année menacées par plusieurs préavis de grève. Après le mouvement massif de ce week-end, la SNCF se prépare à une nouvelle journée de mobilisation mercredi. La grève effectuera surtout les TER et certaines lignes en Île-de-France.
La France de 2022, sixième puissance mondiale, se prépare à des coupures d'électricité cet hiver. Le plan du gouvernement qui prévoit des délestages, sauf dans les zones où se trouvent des hôpitaux ou des commissariats, tient-il la route? Notre quotidien risque d'être chamboulé. Des tas de questions se bousculent et c'est Nicolas Meillant qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir monsieur, merci d'être présent pour tenter, j'allais dire, de nous éclairer. Ce sera un jeu de mots un petit peu... malheureux,
réchauffé,
ingénieur, expert en énergie. Je voudrais qu'on voit ce sujet d'abord préparé par nos équipes, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, pour voir un petit peu ce qui nous attend et les différentes questions qui pourraient se bousculer chez chacun d'entre nous les prochains jours. Et on va discuter notamment avec vous de la situation.
Pour entrer dans son immeuble, Christophe utilise un digicode. Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
Le jour où il n'y a pas d'électricité, ben je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
Même problématique pour l'ascenseur. Cet habitant de la région parisienne vit au cinquième étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
Je vais être obligé de la porter parce qu'elle ne peut pas prendre les escaliers. Donc je suis très embêté, quoi.
Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face aux potentielles coupures de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes.
Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis, tous les voisins auront la même idée. Donc je n'aurai pas beaucoup de place. Il va falloir que je tourne.
Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant? Nous allons poser la question à un électricien.
Donc ça, c'est quoi comme système?
Ça, c'est un système à ventouse. Donc là, on a les électroaimants qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte. Il suffira de la pousser pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système à ventouse, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il ne s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer.
Et si on est à l'extérieur?
Pas de solution.
Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum 2 heures.
Il est lunaire ce reportage. Nicolas Meillant, comment est-ce qu'on en est arrivé là en France en 2022? Je sais que la question est un petit peu vaste, hein, mais je vous laisse
vaste,
le...
Mais écoutez, c'est un petit peu une œuvre collective hein, qui a commencé il y a 25 ans avec Lionel Jospin et Dominique Voynet, avec cette coalition, la gauche plurielle.
Vous allez vous faire un ami, mais allez-y,
Dominique
poursuivez.
Dominique Voynet qui, en 98, ferme le nucléaire du futur, Super Phoenix. La France avait alors 10 ans d'avance sur tous les pays du monde. Et puis ensuite, nous avions... commencé à développer, après Tchernobyl, le programme qui s'appelait l'EPR, eux qui étaient à l'époque pour européens, puisqu'on le faisait avec les Allemands.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste en 10 secondes, parce qu'on entend souvent, très souvent ces dernières semaines, parler d'EPR. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous rappeler ce qu'est un EPR ?
Un EPR, c'est un
réacteur...
Non, c'est un réacteur de centrale nucléaire, sauf que comme Tchernobyl est passé par là, au lieu de mettre juste une ceinture et des bretelles, on a mis deux ceintures, deux bretelles, trois ceintures, trois bretelles. Donc c'est quelque chose qui est à peu près impossible à construire, et c'est pour ça que ça nous a pris 15 ans et 15 milliards d'euros. En gros, c'est un peu le projet qui a été poussé pour les écolos pour tuer le nucléaire. Et il faut reconnaître qu'ils y sont presque arrivés.
Excusez-moi, mais quelle est la responsabilité des écolos dans l'échec industriel de l'EPR qui devait ouvrir en 2012 et qui ouvrira peut-être en 2024 avec un budget qui est le quadruple du budget original? Enfin, je veux bien, je ne suis pas le dernier à critiquer les écolos, et notamment leur point de vue anti-nucléaire.
C'est très simple.
Mais on va écouter la réponse de Nicolas Meillant.
Je l'ai donné juste avant.
C'est un énorme échec industriel.
C'est un échec, oui. C'est un échec franco-allemand, mais on n'aime pas trop le raconter, industriel. Mais c'est surtout parce qu'on allait des niveaux de sécurité qui n'était pas nécessaire avec le principe de précaution. Il faut savoir que
qui est poussé
nos
à l'extrême,
EPR
en fait.
Sont trois fois plus normés que le même EPR en Chine qui est fabriqué en 5 ans. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que nous, en France...
Les normes chinoises de sécurité sont-elles les bonnes aussi, hein?
Pourquoi est-ce que nous, en France, ils ont déjà eu des accidents nucléaires?
Ça fait pas longtemps qu'ils ont des...
Pourquoi est-ce qu'en France, on les construit en 15 ans et en Chine en 5 ans? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on va devoir attendre 15 ans de chauffer avec une centrale à charbon ouverte à Saint-Avon, à la bougie, pour que la situation redevienne normale? Parce que là, on parle d'une potentielle coupure de courant en janvier. Peut-être qu'elle arrivera, peut-être qu'elle n'arrivera pas. Mais le problème, c'est que cette situation, il reviendra l'hiver prochain, l'hiver d'après.
C'est ça, en fait, c'est que le début.
C'est que le début. Et là, on parle de 40% de notre énergie, électricité.
Alors, il y a le président de la République qui nous a rappelé encore hier dans les colonnes du Parisien, ne surtout pas paniquer, mais évidemment, Johan, que vous nous connaissez. Quand on nous dit de ne pas paniquer, c'est là qu'on panique, justement. Et ce qui est intéressant, alors pas de panique, il y a un travail qui est fait par le gouvernement pour préparer les cas extrêmes et qui est la nécessité de couper l'électricité quelques heures dans la journée, si on venait à en manquer. Ce qui est intéressant d'entendre, et c'est d'ailleurs, je vais saluer Jean-Sébastien Ferjou qui est sur ce plateau, parce que c'est lui qui a donné la parole hier sur son site Atlantico à Loïc Lefloc-Prigent, ancien patron de GDF, qui tire à boulet rouge sur le plan qui n'en est pas un d'ailleurs du gouvernement, Loïc Lefloc-Prigent qui était également chez Laurence Ferrari tout à l'heure et qui dit tout le mal qu'il pense de cette façon de faire, cette façon de gérer cette crise énergétique. Écoutez-le.
C'est un plan de communication, ce n'est pas un plan d'action. Et donc lorsqu'on n'agit pas, effectivement, on subit. Il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire. Alors si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit... Ils n'ont pas fait de sciences physiques et mathématiques, c'est embêtant, parce qu'il y en a quand même un grand nombre. Soit c'est volontairement qu'ils racontent des bêtises, et là, bon, il faut que le
pape
se dise,
quoi,
voilà, il y a un problème.
Dans un état d'infantilisation permanente.
L'infantilisation. Mm-hmm. Comme c'est pour ça que j'ai indiqué lors de cet article que vous avez cité sur Atlantico, on rejoue le Covid, on infantilise. Ça.
Nicolas Meillant, c'est de l'infantilisation sans réel plan pour régler le problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Loïc Lefloc-Prigent?
Si vous voulez, on vient de découvrir au bout de 25 ans que la nuit, il n'y avait pas de soleil et que dans un anticyclone, il n'y a pas de vent. Et donc, quelle est la réponse du gouvernement par rapport à ces deux découvertes majeures? Faisons un plan massif pour les énergies renouvelables qui n'aura strictement aucun impact pour passer la pointe du matin à 8h du matin et la pointe du soir à 19h. Donc le problème, et nous on avait alerté avec France Stratégie, on a publié un rapport il y a un an et demi. Le problème, c'est que le gouvernement ne lit pas les rapports de France Stratégie, qui fait partie des services du Premier ministre. Que disait ce rapport il y a un an et demi? Il disait, attention, risque de blackout, c'était avant la guerre en Ukraine, c'était en janvier 2021. Et donc, on disait, comme tous les pays européens, on a un vrai problème en Europe, si vous voulez, c'est que là, on parle beaucoup de la France, mais ce problème est européen. Ça va arriver au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Italie, dans tous les pays. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 15 ans? Chacun dans son coin, alors que c'est un sujet profondément européen. On a fermé nos centrales à charbon, nos centrales à fioul, nos centrales nucléaires. Et on s'est dit, on va, en cas de problème l'hiver, on va compter sur la fourmi la voisine pour lui chercher prendre son électricité. Mais comme tout le monde a fait pareil, là, si on a un délestage, si vous voulez, ça se passe dans tous les pays du tiers-monde, ils savent très bien le gérer. Donc je ne vois pas pourquoi la France n'arriverait pas à gérer quelque chose qui se fait dans
parce qu'on
ne
l'a jamais connu ou presque, à part en 1978.
Le symbole est terminé.
Et puis, c'est le symbole. C'est le
ça
symbole.
Veut dire qu'on est un pays du tiers-monde.
Voilà. On est la sixième puissance mondiale. On n'est pas en Asie du Sud-Est. Mais
ça fait 25 ans qu'on.
Je ne pense pas qu'il y ait de coupure d'électricité à Singapour.
Non, mais vous savez, vous qui êtes un grand voyageur, vous savez de quel
quel type de pays
ça
je parle.
Ça fait 25 ans qu'on ne traite pas le sujet de l'énergie sérieusement. Et là, vous savez quoi? On vient de parler de l'électricité. C'est moins de la moitié du problème. Parce qu'après, il y a le gaz, dont on a décidé de se passer du premier exportateur mondial. Et il y a le pétrole, dont on vient de décider aujourd'hui de se passer du premier producteur mondial. Attention, il y a encore...
Donc en fait, c'est un problème structurel. Il n'y a pas de conjoncture.
Il y a un problème très structurel. Et pendant qu'on parle des coupures de courant, on ne parle pas de nos industriels. On est en train de vivre une désindustrialisation finale. Toutes les entreprises sont parties d'Europe. Et tous nos artisans, boulangers, charcutiers, bouchers, tous ces gens-là qui sont oubliés et qui ne peuvent plus payer la facture. Qu'est-ce qui se passe,
Johan? Qui voulait ajouter un mot.
Il y a le fait de...
Pardon. Ça, je voudrais qu'on y revienne après sur les entreprises. Parce que...
C'est ce que j'allais vous dire. Parce que
le drame, il va être là.
Il y a le fait, effectivement, de ne pas avoir suffisamment d'électricité. Je voudrais nuancer un peu quand même en disant que si ça arrive, ce sera 2 heures dans la journée et que ça sera quelques jours seulement dans l'hiver.
Je reviens sur ce qu'a dit Alexandre, c'est le symbole.
Je suis d'accord, c'est symbolique. Mais néanmoins, effectivement, on ne va pas être... privé de courant pendant des jours et des nuits entières. Voilà, il faut aussi relativiser quand même. C'est grave, c'est anormal. Symboliquement, c'est désastreux, mais ça restera quand même quelque chose d'extrêmement limité.
Oui, si c'est pour débrancher des personnes qui sont sous assistance, parce que je vois qu'il y a...
Il commence à y avoir des fermer les écoles le matin.
Je vois également qu'il y a... Le patron d'Enedis, qui dit quand même que les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures, ils sont non prioritaires et éventuellement délestables. Pardon, mais là, on n'est pas dans l'anecdote. Si vous avez quelqu'un qui est sous respirateur chez lui et qui, pendant des heures, n'a pas sa machine qui fonctionne, alors bon, j'ose imaginer qu'il y aura un suivi et que ces gens-là ne seront pas laissés à l'abandon. Mais si vous avez un couac de cette nature, on ne sera pas à la hauteur du symbole.
Je viens de vous dire précisément que même si c'était 2 heures par jour, c'était quelque chose de grave. C'est le mot que j'ai utilisé. Donc, je n'ai pas minimisé ce qui risque de se passer, à supposer que ça arrive, parce que ça n'est pas non plus complètement certain. Mais ce qui est effectivement plus préoccupant à moyen et à long terme, effectivement, c'est l'impact que ça peut avoir sur des entreprises. Parce que si nous avons en France et en Europe un coût de l'énergie absolument délirant, eh bien, le risque, effectivement, c'est qu'il y ait des délocalisations massives. D'ailleurs, Emmanuel Macron, c'était aussi l'objet de son déplacement aux États-Unis, parce qu'il y a une véritable inquiétude. L'objectif du président de la République, l'un de ses principaux objectifs, ça doit être, effectivement, de permettre aux Français particuliers ou entreprises de diminuer ce coût de l'énergie. Parce que les particuliers, évidemment, en souffrent pour leur pouvoir d'achat, mais les entreprises, à bout d'un moment, ça ne sera plus soutenable. Et le risque, c'est qu'elles partent et donc que ça crée un chômage massif.
Vous voulez réagir, ouais?
Ah oui, parce que je crois que les coupures d'électricité, effectivement, c'est absolument terrible du point de vue du symbole. Pas seulement, vous l'avez rappelé, parce qu'il y a des gens qui dépendent, dont la vie peut être mise en cause. On l'a vu, ça peut être une véritable perte de chance, soit parce qu'il ne sera pas possible de joindre les secours, soit parce qu'ils dépendent de l'électricité pour vivre. Mais le vrai sujet, et qui peut faire encore plus de morts, c'est le coût de l'énergie, parce que les coûts de l'énergie, ça veut dire que les gens ont moins les moyens de se chauffer. Et on sait que quand la température diminue, vous avez de la mortalité en plus, de la surmortalité. Le froid tue plus que la chaleur. On le répétera jamais assez, je vous le disais la semaine dernière.
C'est vrai.
Ce sont les estimations qui ont été faites par un certain nombre de scientifiques. Il y avait une grande enquête dans The Economist et on a travaillé dessus aussi sur Atlantico. C'est jusqu'à 185 000 morts en Europe supplémentaires. Il y a les morts du froid chaque année, justement liées au fait qu'à chaque degré de température qu'on perd. Mais là, avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront plus les moyens de se chauffer. Et derrière, il y aura...
Puis vous coupez la France en deux également, hein, entre les urbains qui a priori seront à l'abri de ces délestages et de ces coupures, et puis des ruraux, cinquième roue du carrosse.
Mais elle n'est pas coupée en deux pour le coup. Là,
oui, pour le coup, je parle du délestage, vous avez raison.
Mais le sujet de fond, ce sont les coupures. Le fait de ne pas pouvoir chauffer correctement sa maison, je vous rappelle que les recommandations de l'Agence de santé publique française, c'est 22 degrés, 22, 23, même pour des personnes âgées. Ça n'est pas 19 degrés et certainement pas 17 degrés. Sauf que quand vous n'avez pas les moyens de vous chauffer, qu'est-ce que vous faites? Et derrière, le scénario de la désindustrialisation, ça n'est pas une vue de l'esprit. Il est déjà là. Il y a déjà des entreprises européennes et des entreprises françaises qui ont renoncé à une part de leur production. On ne veut pas voir que le secret de notre prospérité depuis 30 ans, c'était deux choses. C'était une énergie pas chère et c'était des salariés asiatiques qui étaient très peu payés avec des normes de protection sociale bien inférieures à celles que nous connaissons ici.
Je voudrais
qu'on
avance.
Parce qu'il n'y a pas eu d'innovation en Europe. Ben oui, mais on va découvrir les vilains petits secrets de notre prospérité. Je vous dis que...
Et le pire, Nicolas Meillon, c'est que, si je comprends bien, mais vous êtes là pour nous l'expliquer, ce n'est pas que l'histoire de cet hiver. Parce que là, aujourd'hui, les cuves de gaz, elles sont pleines. En fait, ce qu'il y a le plus à craindre,
ce sont les hivers qui viennent et le prochain particulièrement.
Alors, pour information, si vous chauffez au gaz mais qu'il y a une panne d'électricité, votre chaudière ne marche plus.
Donc le chauffage ne marche plus.
Non, le problème, c'est qu'on a un problème, on a un programme de grand carénage. Donc, en fait, on va rénover nos centrales nucléaires, mais un peu plus que d'habitude parce que c'est pour les faire durer plus longtemps, allonger leur durée de vie de 40 à 60 ans. Et ce programme, il s'étale en 2022, 2023, 2024, 2025. Manque de peau, c'est à ce moment-là qu'est arrivé ce problème de corrosion sous contrainte, qui est un problème que nous savons gérer. Mais au lieu de fermer les centrales les unes après les autres pour les réparer en séquencement...
On les a toutes fermées en même temps.
On les a toutes fermées en même temps. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui?
À cause du Covid.
10 et 15 gigawatts.
À cause de...
Le problème de corrosion des contraintes n'a rien à voir avec le problème du Covid.
Non, mais le problème de maintenance des centrales, il devait se faire pendant la pandémie.
Il y a des centrales dont la maintenance a été décalée ou a duré plus longtemps, mais le problème du grand carénage n'a rien à voir avec le problème du Covid. Donc, on a aujourd'hui décidé, au lieu de fermer l'une centrale après l'autre et de devoir faire venir des soudeurs des États-Unis pour pouvoir les réparer et de tout faire en même temps, on aurait pu faire l'une après les autres, on aurait 10 gigawatts de plus. Parce que le problème, c'est que si on a une coupure de courant de 2 heures, ça va bien se passer. Le problème, c'est quand ça se passe mal. Quand ça se passe mal, c'est que vous avez une grosse vague de froid sur toute l'Europe, et là, on perd le contrôle du système électrique en Europe, et là, c'est le blackout. Et là, ce n'est pas 2 heures, le blackout. Ça peut prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus, des conséquences beaucoup plus graves. Et c'est ça qui m'inquiète. Un délestage, pour le symbole, ça va être difficile. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'occupe de nos entreprises, qu'on commence à faire baisser le prix de l'électricité, qu'on le décorrèle du prix du gaz. Emmanuel Macron nous avait dit en septembre qu'il allait tout faire pour le décorréler.
Oui, je pense par exemple au prix des billets de train qui vont exploser. Par exemple, c'est un exemple
et
comme un autre.
L'interdiction des vols intérieurs. Hein, parce que l'interdiction des vols intérieurs, le trafic.
Et de se dire, non mais le pire dans tout ça, c'est de se dire ce que l'on répète d'ailleurs depuis des semaines et des semaines, c'est que dans cet océan de difficultés, on aurait pu ressortir gagnant si on avait su garder notre parc nucléaire intact. Alors je sais que Philippe Guibert, notamment sur ce plateau, est pas d'accord avec cela. C'est d'ailleurs ce que dit en substance Agnès Pannier-Runacher, qui était ce matin face à Laurence Ferrari. Écoutez bien, s'il vous plaît, Nicolas Meillant, ce que disait la ministre ce matin. Je vous posais une question très très simple. Est-ce qu'elle dit la vérité ou pas? Écoutez.
Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie. Je tiens à le rappeler.
Jamais.
Depuis
même
des années.
Même quand nos centrales nucléaires fonctionnaient
Mais bien sûr, nous apportons 2/3 d'énergie fossile. Et nous en apportons moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc en fait, ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe. Et précisément ce que fait le gouvernement, c'est de construire cette indépendance énergétique en développant des énergies renouvelables et en développant du nucléaire.
Mensonge ou réalité?
Si vous voulez, il y a un préjugé en France. On pense que le nucléaire, c'est toute l'énergie qu'on consomme. On oublie que souvent on a une voiture et qu'elle n'est pas encore électrique, une Tesla. Et donc en fait, 2/3 de la consommation d'énergie en France, et ça on vient de le découvrir avec M. Poutine, c'est du gaz et du pétrole.
D'accord, donc c'est à travers ça, cette explication-là, qu'elle noie le poisson d'une certaine façon.
Après, il reste 40% d'électricité, oui. Une très grande partie
de l'énergie. C'est pas très honnête de le dire comme ça. Ouais.
Et le nucléaire, si vous voulez, on est souverain, oui, on le produit nous-mêmes et on en exportait. Mais l'uranium, on ne va pas le chercher dans le bois de Boulogne. On va le chercher au Niger, on va le chercher au Kazakhstan, on va le chercher au Canada. Et c'était tout l'intérêt justement de cette filière de quatrième génération qui a été tuée une première fois en 1998 par Dominique Voynet et une seconde fois en 2019 par Emmanuel Macron. C'est que ça permettait d'utiliser tous les déchets comme carburant. Ça permet de fermer le cycle du carburant. Et donc aujourd'hui, vous avez les Chinois qui développent cette filière parce qu'ils les ont développés avec notre aide. Il y avait les Russes qui la développent. Et après-demain, à qui on va racheter cette filière ? Aux Chinois ou aux Russes.
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de nous expliquer à quelle heure on fait tourner notre machine à laver, peut-être qu'un début de mea culpa de la part de ceux qui nous gouvernent serait mieux venu.
Ou alors qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ont fait nos ancêtres, par exemple. Ceux qui nous ont légué ce parc nucléaire, et malheureusement, nous avons été les rentiers, et donc nous n'avons pas investi pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le même choc pétrolier que nous. Et je dirais le même, mais 3 fois moins pire. Eux, ils ont eu un choc pétrolier en 73. Nous, un choc pétrolier, gazier, électricité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 5 ans, ils ont construit 10 réacteurs. 10 réacteurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on vous dit, prends ta douche plutôt à 21h qu'à 20h, je te mets 15 jours de ristourne en plus, Et puis, si tu peux mettre le sèche-cheveux plutôt à 22h, fais-le.
Emmanuel Macron qui disait quand même, alors Philippe, je vais vous donner la parole, je sais que vous êtes en train de bouillir intérieurement, donc c'est à
non,
vous.
Non.
Emmanuel Macron qui disait qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim. Vous vous souvenez de cette phrase, qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim? Mais bien sûr que si, on va aller le chercher sur Fessenheim.
Avec la petite difficulté, on peut aller le chercher sur Fessenheim, parce que moi je pense que c'était pas forcément une bonne idée de l'interrompre, et qu'elle aurait pu être prolongée, je crois, techniquement, d'une dizaine d'années. Ou...
Mais surtout qu'on avait investi pour le faire.
Et simplement Fessenheim, la France, en 2015-2016, fin de quinquennat Hollande, c'est 400 TWh de production électrique. Aujourd'hui, en 2022, c'est 280. Il manque 120. Fessenheim, ça représente une quinzaine de TWh. Donc, je pense que ce n'était pas une bonne idée de fermer Fessenheim, mais 15 versus 120 qui manquent.
Philippe,
et donc, même si on avait les 15, pardon,
le sujet,
je termine.
C'est l'impact sur l'ensemble de la filière.
Non, c'est pas terminé, vrai. Philippe. C'est pas vrai. Et donc, il ne faut pas, je trouve que dans tout ce débat, on peut discuter le choix de François Hollande puis d'Emmanuel Macron de ne pas se lancer tout de suite dans l'EPR, ce qui est un peu le procès que vous leur faites.
La loi prévoit encore une diminution du nombre de réacteurs.
Jean-Sébastien, carton jaune.
On peut avoir ce débat politique, sauf que l'EPR a été un échec industriel et ça n'a pas incité les responsables politiques, peut-être à tort, à lancer ce chantier tout de suite. Maintenant, dans ce débat, il manque aussi les responsabilités de l'entreprise EDF. Parce que la maintenance des centrales et le problème des fissures, ce n'est pas un problème de politique publique, ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème d'entreprise qui fait tourner ses usines. Et les usines, ce sont les centrales nucléaires.
Donc si nous
et
en là, sommes là où nous en sommes aujourd'hui, Philippe, vous me dites si je traduis bien votre pensée, c'est une grande partie la responsabilité d'EDF et beaucoup moins celle de nos différents gouvernements des 20-30 dernières années. Alors je voudrais avoir le mot de la fin et la réponse de l'expert de ce plateau, à savoir Nicolas Meillant, sur ce que vient de dire Philippe Guibert.
Dans le manque actuel d'électricité,
et
oui, il y a une responsabilité directe.
Nicolas Meillant, qu'en dites-vous ?
Nicolas Sarkozy a signé avec un couteau sous la gorge la libéralisation du marché de l'électricité en 2010, hein, et donc a mis en place la loi NOM, l'AREN, et ça c'est beaucoup de revenus qui ont été perdus pour l'entreprise EDF, parce qu'on a créé des fournisseurs alternatifs qui ne produisaient que des factures, qui n'ont jamais investi un seul centime pour produire de l'électricité, et ça c'est autant de revenus qui n'est pas allé dans la poche d'EDF pour entretenir ses centrales correctement, pour investir dans la production d'électricité, et donc je pense qu'on a une responsabilité assez importante. Et l'Europe, avec cette libéralisation d'un marché d'infrastructures, que ce soit le ferroviaire ou l'électricité, on sait que ça ne fonctionne pas. Vous dégradez le service, vous augmentez les prix. C'est exactement l'inverse de ce qu'on cherche à faire. Donc EDF, je pense, a assez bon dos sur ce coup-là. Et on ferait mieux de trouver les moyens, de lui redonner justement les moyens d'investir, d'entretenir ses centrales et d'avoir surtout un plan dans les années qui viennent pour éviter de passer l'hiver 2022, 2023, 2024 à la bougie.
Parce que c'est ça, en fait. Franchement,
il y a
faut
un
pas...
an à peu près.
C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est que le plus effrayant, c'est pas l'hiver qui est là.
Dans la loi, l'état de la législation en France, c'est que nous allons vers une réduction du nombre de réacteurs en France. C'est l'état de la loi. Il n'y a pas eu de nouvelle loi. Mais oui, mais les déclarations d'intention, ce n'est pas la loi. La loi, c'est.
Et donc, il continue à parler de
Emmanuel Macron sur EDF.
Allez,
pas en même temps. Donc, il y a deux.
Sébastien, tu sais très bien que le nucléaire a été relancé en France. On fait le pari de l'EPR.
Et pour qu'il y ait un pari...
Allez vous acheter l'objectif dans la loi. On en discutera plus tard.
Sur d'autres réacteurs que l'EPR.
C'est une discussion.
Bon, merci en tout cas Nicolas Meillant, ingénieur expert énergie, d'être venu nous éclairer encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je fais ces jeux de mots à 4 francs 6 sous, comme on dit. Mais c'était comment ?
Très bien.
Ça vous plaît quand même ?
Ouais.
Bon, on va parler Covid, ça va vous plaire également pour la suite. Merci donc beaucoup et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de CNews. Restez un instant, le temps d'envoyer un petit extrait. Après avec la 9e vague de Covid-19, donc est-ce qu'il faut réintroduire le masque obligatoire dans les transports ? Jusqu'à présent, le gouvernement s'est refusé à imposer toute contrainte sur le sujet, malgré le rebond épidémique, couplé aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Mais les autorités commencent à le suggérer de plus en plus. Le bras du ministre de la Santé, d'ailleurs, ne tremblera pas si jamais il faut faire un choix. Écoutez-le.
Je suis l'évolution de la situation jour après jour. Pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire dans les transports en commun. C'est sur la table des discussions. En fonction des résultats, nous aurons demain les publications mises à jour de Santé publique France. Nous verrons où nous en sommes et la décision sera prise en fonction de l'évolution de la situation. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir peur de quoi que ce soit ? Non, j'ai pas peur. J'ai absolument pas peur et vous savez, mon travail en tant que ministre de la Santé, c'est de protéger tous nos concitoyens et prioritairement les plus fragiles comme ceux que j'ai vus ici aujourd'hui.
Et j'en profite également pour saluer l'arrivée sur ce plateau du professeur Bruno Mégarban. Ravi de vous avoir sur le plateau, ça faisait un moment qu'on ne vous avait plus vu et on pensait... Ouais, c'est fini le Covid. Ils vont retourner à l'hôpital un petit peu. Et puis, non, c'est reparti. 9e vague. Professeur Mégarban, chef de service réanimation à la Riboisière. Donc, dans les hôpitaux, les admissions en soins critiques de patients atteints par le Covid-19 augmentent. On est à
120 admissions par jour.
Est-ce que vous êtes inquiet ce soir?
1100 patients en réanimation.
1100 patients. Je rappelle qu'on est 67 millions de Français. Est-ce qu'on peut se détendre un petit peu ou pas?
C'est la question, justement. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement prend son temps pour décider si oui ou non il va demander l'obligation du port du masque dans les espaces clos. Car il doit observer, est-ce qu'il y a une bonne décorrélation entre la progression des contaminations, qui est très nette...
Vous l'entendez, professeur,
et la progression des hospitalisations.
Elle est là. La petite musique, les enfermistes, les alarmistes, ils sont là, vous les avez, ils vous sifflent à l'oreille.
Je ne suis pas du tout favorable particulièrement à l'obligation. Par contre... Je crois qu'il faut prendre les bonnes mesures de santé publique pour protéger la vie, pour protéger les plus vulnérables. Et effectivement, le gouvernement est dans une situation difficile car, premièrement, la couverture vaccinale avec les rappels n'est pas bonne dans la population à risque.
Ça, c'est important.
Deuxièmement, les indicateurs des contaminations sont moins bons parce que les remontées sont moins bonnes et parce que les personnes ne se dépistent pas autant. Et troisièmement, surtout... Parce que l'hôpital est en grande difficulté et donc la marge de manœuvre est extrêmement limitée.
Mais ça, c'est donc, pas la responsabilité des gens à qui on veut faire porter le masque à tout prix dans les transports, sûr, professeur. Vous le savez. Qu'est-ce que vous en dites de Brigitte Autran, présidente du Covers? Vous connaissez un peu?
Oui, tout à fait. C'est une très bonne immunologiste, dont je crois que c'est en tout cas une très bonne spécialiste des infections et de l'immunité anti-infectieuse.
Écoutez ce qu'elle dit ce soir au micro de nos confrères de RTL sur le masque.
Il faut que les gens portent le masque. Il faut que les personnes se protègent, protègent leur entourage.
Est-ce que vous pensez que ce masque doit redevenir obligatoire?
Ça n'est pas à moi de répondre à cette question qui est une question politique, je le rappelle. Nous ne sommes plus dans la loi d'urgence sanitaire. Donc il ne suffit pas de claquer les doigts et de dire il faut que ce soit obligatoire. C'est plus compliqué que ça. Nous donnons des arguments pour et des arguments contre. Les arguments pour le renforcement du port de masque, c'est l'intérêt de limiter la transmission et l'épidémie. Donc ces arguments-là, ils sont vrais que ce soit par un renforcement, par une responsabilisation des Français ou que ce soit par l'obligation. Il faut renforcer le port du masque et il faut trouver les meilleurs moyens pour le faire.
Et on le voit venir, ce retour du port du masque. Je rappelle que le COVARS, c'est le nouveau conseil scientifique, si je puis dire. Regardez cette photo du ministre des Transports, Clément Beaune, qui tweet tout à l'heure avec son joli masque. D'ailleurs, lui, il a fait le combo. Hein. C'est col roulé et masque pour Clément Beaune. Comme ça, tout est parfait. Les recommandations, les leçons de morale, les tweets anxiogènes. Professeur Mégarban, c'est le retour du grand cirque. Les Français ont compris. Ils savent ce qu'est le Covid, ils ont a priori compris qu'il fallait vivre avec, qu'il fallait s'en protéger si on était fragile ou mieux encore se faire vacciner si on est dans une situation encore une fois à risque. Faut-il retourner vers ces discours anxiogènes autour du Covid?
Je ne crois pas que c'est des discours anxiogènes.
Je vois un ministre qui porte le masque et qui me dit que je dois le mettre. Je n'ai pas envie de le voir.
Le rôle des autorités, c'est de faire des recommandations. Et je suis tout à fait d'accord avec la position de Mme Autran. C'est une recommandation forte de porter le masque, notamment lorsqu'on est vulnérable, fragile, âgé, pour éviter d'être contaminé. Quel est l'objectif du masque? C'est actuellement, nous avons trois épidémies parallèles. Ouais. Toutes, ce sont... des infections virales qui s'attrapent par les voies respiratoires, donc par aérosol. Donc le masque est une excellente prévention contre ces trois infections. Le but, lorsque l'on porte le masque, c'est d'éviter d'être contaminé et donc en fait de ralentir la progression de l'épidémie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'hôpital étant fragile, s'il y a une brusque arrivée massive de personnes vers l'hôpital, on va être en difficulté et donc de fait, on va devoir, comme on l'a fait précédemment, décaler un certain nombre de rendez-vous, décaler des interventions non urgentes, moins bien traiter un certain nombre de pathologies. Et donc le but, c'est de l'éviter. Car à nouveau, les marges de manœuvre de l'hôpital public sont très limitées. Maintenant,
Mais pourquoi est-ce que, les capacités de l'hôpital, les capacités d'accueil de l'hôpital n'ont pas évolué d'un iota pendant 2 ans?
Oui, mais parce que ça...
C'est ça qui est insupportable,
mais
en fait.
Ça, c'est le problème. C'est le problème pour lequel nous nous battons depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire, en fait, il y a un problème de fond ancien, structurel de l'hôpital public, avec une seule devise des administratifs qui le gèrent, uniquement l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, même, je peux vous dire, il y a un programme de fermeture de lits qui n'a pas bougé d'un millimètre. Dans l'hôpital dans lequel je travaille, il y a une construction d'un nouvel hôpital. Eh bien, un tiers des lits de médecine seront fermés.
Et évidemment que je ne vous vise pas, vous, personnellement.
Je le dis publiquement.
Oui, mais bien sûr, mais pourquoi ce discours que vous êtes en train de tenir, pourquoi Madame Autran, pourquoi les grands responsables de santé publique dans ce pays, au lieu de nous dire qu'il faudrait faire attention à mettre des masques dans le métro, ce qui, a priori, si on a un minimum d'intelligence, on n'a pas envie d'avoir une maladie, on n'a pas envie d'avoir des formes graves, donc si on se sent en faiblesse ou en fragilité, on va le mettre, mais monter au créneau sur ce qui se passe dans les hôpitaux, au lieu de nous dire de mettre des masques dans le métro.
Mais je ne crois pas que...
En l'occurrence, vous le faites, et c'est très louable.
Mais je ne crois pas que Madame Autran ne défend pas l'hôpital public. Par contre, effectivement, elle a une mission très précise.
Mais pourquoi le discours qu'on tient là, tout de suite, là, en ce moment, on ne l'entend jamais?
Non, je crois que, en tout cas, tous les syndicats de médecins, de paramédicaux, de soignants, tous les
intersyndicaux... Pas des syndicats, attention.
Tous les intersyndicaux, tous les comités de défense de l'hôpital public, le crient depuis longtemps, nous ne sommes pas entendus. D'ailleurs, le ministre lui-même avait et connaît parfaitement ce problème. Mais malheureusement, dès qu'il est entré au ministère, il est engrainé par une administration qui n'a que cet objectif. Et donc, il marche de manœuvre extrêmement limitée, que ce soit en financement ou même en stratégie de développement de l'hôpital. Et malheureusement, je peux vous donner à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Nous avons voté, l'ensemble de la communauté médicale, l'abolition des pôles et des départements médicaux universitaires qui ne servent à rien, qui gangrènent l'hôpital, qui empêchent qui empêchent, on va dire, la gestion en fonction de la réalité. Aucune décision d'abolition n'a été faite. On nous a consultés, on nous a fait remplir des tas de documents, on a donné notre opinion, on s'est assis sur notre opinion.
Mais est-ce que... Alors juste, Alexandre, on fait le tour de table parce que je me suis beaucoup, évidemment, intéressé d'abord au professeur Megarban, mais on va faire un petit tour de table. Juste, il est 23h31. J'accueille de nouveau Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité et on poursuit cette discussion.
Ouverture des débats au procès des attentats de 2016 à Bruxelles. Ils dureront jusqu'à fin juin. À la barre, 9 accusés, dont Salah Abdeslam ou encore Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, qui avait renoncé à commettre l'irréparable. Le 22 mars 2016, 2 djihadistes s'étaient fait exploser dans l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, un troisième dans une station de métro, faisant au total 32 morts et des centaines de blessés. Près de 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. Plus de 8000 plaintes ont été déposées en 2022, soit une hausse de 29% sur l'année. Et dans le détail, c'est le 15e arrondissement qui se trouve être le plus touché par les cambriolages. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine a roulé sur le pont de Crimée, partiellement détruit en octobre. Il s'agit de sa première visite dans la péninsule annexée depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. Le président russe a ainsi pu s'entretenir avec des ouvriers et faire un point sur l'avancée des rénovations du pont.
On est de retour donc avec les invités. Alexandre Devecchio, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, j'avais une question pour M. Megarban. Je partage tout à fait ce qu'il a dit sur l'état de l'hôpital, sur le problème de la technosculture qui est obsédée par des questions budgétaires et qui a donc une vision à court terme. Ben, je me demande quand même si vous n'auriez pas dû le dire un peu plus au cœur de la crise. Vous l'avez dit un peu, vous faites partie de ceux qui l'ont dit un peu, mais en abondant, je comprends parce que vous étiez dans une situation d'urgence, mais en reprenant à votre compte toutes les consignes infantilisantes du gouvernement, est-ce que vous avez finalement pas fait le jeu du gouvernement pour le gouvernement? C'est plus facile finalement de reporter la faute sur les Français que d'assumer ses propres responsabilités. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu vous faire entendre davantage sur cette question-là, traiter pour le coup la maladie plutôt que les symptômes?
Je crois qu'on a fait les deux, en fait. Dans la période de crise, nous avions à la fois un discours de santé publique, qui est quand même notre mission première. À nouveau, nous sommes des médecins avant d'être des administrateurs du système de santé. Donc nous avions des recommandations que l'on donnait sur la prise en charge, sur les risques, sur les moyens de prévention.
Oui, mais cette demande de pédagogie,
nous avons continué nos demandes de modifier de façon pérenne le système, car sinon nous allons dans le mur. Malheureusement, des promesses ont été faites. Il y a eu un Ségur, il y a de l'argent, il est vrai, qui est injecté très régulièrement, mais malheureusement, qui ne sert pas à régler le problème de fond, qui sert à plâtrer un certain nombre de problèmes. Cet argent est essentiellement utilisé par l'administration pour proliférer et, on va dire, mieux consolider sa façon de faire.
Mais d'ailleurs, on a l'impression que ça continue.
Il faut bouleverser le système.
Cette communication, ces tweets que l'on voit, ces ministres qui nous recommandent de porter le masque et d'aller se faire vacciner. Bon, très bien, mais c'est encore une fois l'impression d'un écran de fumée pour ne pas évoquer les vrais sujets. Alors, je vous vois tous me fixer. Karima, Philippe, si vous voulez réagir également.
Oui, il y a deux choses, en fait, sur le système de santé comme tout tel, le sur les hôpitaux. Oui, il y a une question de sous-financement, il y a une question aussi de valorisation de certaines professions. S'il manque, par exemple, certains aides-soignants ou quoi que ce soit, qu'on fasse des programmes, qu'on encourage les gens à aller étudier dans certains programmes, est-ce qu'il y aurait des formations accélérées?
Ça, c'est après, fait.
C'est en cours.
Exactement, problème, mais ça s'est fait aussi.
C'est pour les soignants, il faut 3 ans à peu près. Bien sûr. Les médecins, il en faut 10.
Évidemment, je ne parle pas nécessairement des médecins.
On ne devient pas médecin, ouais, comme ça.
Exactement. Mais je parle, par exemple, il y a eu des cas, notamment au Québec, sur des aides-soignants qui manquaient. Il y a eu des programmes en accéléré pour faire de la formation, pour aller donner du renfort dans les hôpitaux. Je ne dis pas que ça se fait en 6 mois. Je dis qu'il faut agir sur plusieurs plans, sur un horizon différent.
Et anticiper.
Et exactement. Donc,
on a du mal à faire dans ce pays.
Oui, sur la question du sous-financement aussi dans le système de santé. Ensuite, deuxième chose sur l'obligation du masque. Non à l'obligation, oui à la sensibilisation, la responsabilisation. Je pense que si on a appris une chose pendant cette crise, pendant 3 ans maintenant, c'est bien en fait qu'on ne peut pas simplement gérer une crise sanitaire seulement avec le prisme épidémiologique. Il y a aussi la question du prisme social, humain, psychologique. Donc ça aussi, ça compte. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qu'on a appris depuis 3 ans.
Philippe, vous voulez enchaîner, Johan, ensuite?
J'ai deux points. De questions au professeur.
Ah oui, pas vu.
D'abord, est-ce que les conditions de travail des soignants et des soignantes, puisque les femmes sont les plus nombreuses, ont été suffisamment améliorées pour qu'on puisse résoudre la crise de recrutement? Parce que tout ce qui me revient des personnes.
Sinon, vous savez que vous pouvez réintégrer les non-vaccinés. Hein.
Ouais, mais c'est peanuts.
C'est 500 personnes, ça ne change rien.
Le problème, c'est qu'on a une crise de recrutement parce que quand vous écoutez toutes les personnes qui travaillent dans le secteur socio-médical, personne ne veut aller travailler à l'hôpital. Les horaires sont épouvantables, les conditions de travail sont épouvantables, les salaires sont vraiment pas terribles. Et donc, ils préfèrent s'installer en libéral, même qu'on est infirmière. Parce que
oui, vous avez raison.
Quitte à supporter un petit risque financier, mais au moins on sait pourquoi on le supporte. Donc, première question. Et puis, deuxièmement, pourquoi on a si peu vacciné les personnes les plus fragiles, alors qu'on savait bien qu'il y aurait une nouvelle vague qui allait finir par arriver?
Alors, pour votre première question, malheureusement, peu de choses ont été faites. Il y a deux revendications principales.
C'est inquiétant ce que vous
nous dites. Voilà. Il y a deux revendications principales. C'est la première, d'instaurer un quota, c'est-à-dire en fait un nombre maximum de patients que peut prendre en charge un personnel paramédical, infirmier ou aide-soignant. Car malheureusement, comme il y a un manque de personnel et qu'il y a une pression très importante sur les patients, eh bien, dans les périodes difficiles, le nombre de patients à charge d'un infirmier augmente et de fait, la qualité du travail diminue et la motivation et les conditions de travail se dégradent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est rétablir l'importance du service. Vous voyez, moi, je suis chef de service, mais je ne suis à aucune seconde consulté par la direction de l'hôpital. À aucune seconde.
J'espère
pour rien
écoute.
Du tout.
J'espère
par contre, je reçois des Excel régulièrement pour me donner mon avis,
c'est
dont on ne regarde pas. Et puis, je reçois in extremis, toujours la veille d'ailleurs des décisions, l'avis et l'avis de la décision. Et je suis mis devant le fait accompli. Pourquoi ? Parce que l'hôpital était organisé en département médico-universitaire avec quelques personnes à la tête de ces départements, dits directeurs. Je ne sais pas en quoi ils sont directeurs. Et qui, eux, sont consultés, qui, de fait, pour des raisons relationnelles, politiques, d'intérêt, endossent et acceptent la stratégie administrative. Et de fait, évidemment, ils permettent, au lieu de défendre l'intérêt de la profession, ils servent de courroie de transmission des décisions administratives vers le personnel. Et ça, il faut le changer. Et notamment pour les conditions de travail, ces départements permettent de transplanter, enfin de prendre du personnel de certains services, de les mettre dans d'autres. Et ça, c'est refusé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça nie la spécialisation. Vous voyez, quelqu'un qui travaille dans un service, qui a une certaine façon de faire, qui s'occupe d'une certaine typologie de patients. Si vous le prenez et vous le mettez du jour au lendemain parce qu'il manque du personnel dans un autre, eh bien, il a l'impression de ne pas être bon, de mal faire son travail. Ah, et donc, il est démotivé. Ce sont les deux revendications que nous faisons, c'est-à-dire redonner de l'importance au service.
Mais non, il ne sera pas entendu. Et ça, ça ils ne seront pas entendus, puisque ça fait des années. Ça fait... La crise de l'hôpital date d'avant le Covid. Le Covid est passé par là, rien n'a changé.
Cette importance du service, ça n'a été donné que 2 mois depuis une dizaine d'années. 2 mois en mars à mai 2020. Ouais. C'est-à-dire lorsque les administratifs sont partis de l'hôpital par crainte d'être contaminés, les chefs de service ont rempli leur mission et ont pu faire face à l'épidémie. Incroyable. C'est les deux seuls mois où nous avons eu un rôle important.
C'est incroyable. Allez, deux dernières prises de parole là-dessus, éventuellement vers Bruno Megarban ou pas. Johan Usaï.
Oui, mais François Braun, en plus, connaît bien toutes ces problématiques. Ben oui. Il les connaît par cœur. Donc,
mais le précédent était médecin aussi. Hein,
oui,
mais
ce que je veux dire, c'est que les ministres n'ont pas besoin d'être alertés. Ils connaissent parfaitement la situation de l'hôpital.
Oui, mais une fois que vous basculez de l'autre côté, vous oubliez tout.
C'est pas qu'ils oublient. C'est qu'ils sont prisonniers de leur action, ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre la politique qui souhaiterait mener, parce que les problématiques, ils les connaissent évidemment par cœur. Je voulais simplement dire que je suis effectivement moi, très inquiet de voir François Braun tous les jours sur le terrain ou dans les médias en ce moment. C'est quelqu'un qui est plutôt discret en général, qu'on voit peu. S'il est là, s'il parle beaucoup aux médias et donc indirectement aux Français, c'est précisément parce qu'on sent bien que quelque chose se prépare. Mais manifestement,
la semaine prochaine, à la même heure, on fait l'émission avec l'annonce du masque obligatoire.
Le fait qu'il soit présent quotidiennement dans les médias, alors qu'il est habituellement très discret, le fait, voilà, des formules, ma main ne tremblera pas, je consulte régulièrement, nous saurons prendre les bonnes décisions, tout ça quand même laisse présager de décisions qui seront, j'allais dire, dures. On a connu beaucoup plus difficiles, mais qui seront quand même désagréables, me semble-t-il.
Jean-Sébastien, dernier mot.
Le masque obligatoire dans les transports en commun, alors, si on regarde les bilans, les recommandations ont mieux marché pendant la pandémie que les obligations. Enfin bon, à la limite, moi je préfère ça.
Vous savez dans combien de pays c'est obligatoire en Europe aujourd'hui, à l'heure où on se parle? 3 ou 4, je crois. On a l'infographie avec...
Quoi qu'il en soit, c'est pas insupportable de mettre un masque dans les transports en commun.
Encore une fois, c'est une question de principe. Les Français, a priori, savent ce qu'ils ont à faire.
Comme vient de l'expliquer Megarban, de survie, en quelque sorte, pour l'hôpital. Mais après, sur les chiffres même, parce que la réalité, elle est là, et c'est ce que vous soulignez, la réalité, elle est brutale. La France est le pays, l'OCDE, qui consacre le plus d'argent à l'hôpital public, avec la Suède, si je me souviens bien. Donc, c'est pas une question de financement, c'est une question d'allocation des dépenses et de méthode de gestion. On s'est enfermé dans une méthode de gestion qui est complètement comptable. Le ratio à l'hôpital public, c'est 2 administratifs pour 1 soignant, alors que dans le privé, c'est 1 pour 1 et il n'y a pas des masses de morts dans les hôpitaux privés. Donc, il y a un vrai système, un vrai problème de gestion de l'hôpital public en France. Les médecins, effectivement, il faut 10 ans pour en former, mais malgré tout, quand on regarde en masse, il y a beaucoup de gens qui ont fui le système hospitalier notamment, ou la médecine au sens large. Ils sont quand même diplômés, ils existent. Il faut rendre à nouveau le métier attractif. Ça passe par les rémunérations,
ça passe par le sens,
c'est ce que vous disiez.
Parce que le métier, a priori, il l'est toujours. C'est l'hôpital, c'est l'assistance publique.
Parce que regardez la grève des médecins généralistes, le métier, il n'est plus non plus pour les généralistes.
Donc, je parle des spécialistes.
Il faut sortir de cette logique, justement, qui est totalement comptable et qui a fait perdre tout sens. La souffrance, on l'a vu, la souffrance mentale, psychologique chez les soignants, elle est majeure. Il y a jusqu'à 80-85% des soignants en France qui disent qu'ils sont en situation de souffrance et rien n'a été entendu. Et dernier point enfin, il faut gérer les priorités conjointement les unes avec les autres, parce que le chef, l'équivalent du directeur général de la santé au Royaume-Uni, vient d'annoncer qu'il constatait depuis plus de 6 mois maintenant une surmortalité tous les mois liée justement à tous les morts qu'on doit au Covid, à la désorganisation, parce que les cancers n'ont pas été pris en charge à temps, parce qu'il y a eu de la perte de chance, et sur les cancers notamment, et sur les troubles cardiaques. Et comprenez-moi bien, à aucun moment il ne dit que c'est à cause des vaccins. C'est pas ça qu'il dit. Il dit à cause de la désorganisation du Covid et des mesures, de la manière dont on l'a géré, on est en train de le payer en termes de surmortalité aujourd'hui. Donc j'espère que le gouvernement français s'en souviendra s'il est amené à prendre de nouvelles mesures.
Eh ben, vivement la 10e vague. Le mot de la fin, professeur Megarban.
Oui, j'allais juste répondre à votre deuxième question que je
fais. Rapidement, si possible.
Rapidement. Effectivement, malheureusement, nous avons fait une mauvaise campagne de vaccination. Nous aurions dû aller vers, c'est ce qu'on avait dit au cours des deux premières vagues. Au Royaume-Uni, 85% des personnes de plus de 60 ans ont reçu leur dose de rappel et sont à jour. Il aurait fallu aller vers pour administrer ces doses de rappel. Et à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de porter le masque, en tout cas de le rendre obligatoire dans les lieux clos.
Bon, vous savez que à chaque fin d'émission de Soir Info, on essaie de se détendre un petit peu quand même. On va boucler la boucle pour la dernière image. On a commencé, alors Bruno Megarman ne le sait certainement pas parce qu'il n'était pas avec nous. On a commencé l'émission, vous savez que c'est l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday aujourd'hui. 5 ans, on en parlait avec Fabien Lecoeuvre tout à l'heure. Et la dernière image, on la consacre également à Johnny Hallyday. Et on va aller du côté de Bruxelles. Regardez ce qu'ont fait nos amis bruxellois avec le Mannequin Peace, en musique hein, d'ailleurs. Ça va aller Philippe? Vous lui tapez un peu dans le dos, Karima. Le Mannequin Peace, regardez. Ils lui ont mis le costume du rocker avec le petit cuir, le petit foulard rouge. Évidemment, bah, le Mannequin Peace, il fait ce qu'il a à faire, hein, ça on connaît. Une façon de rendre hommage à Johnny Hallyday à l'occasion donc des 5 ans de son décès, mais aussi pour faire la promotion d'une expo qui lui sera consacrée dans 2 semaines dans la ville. Vous savez que le Mannequin Peace, il est régulièrement déguisé, hein, le Mannequin Peace. C'est le 1105e costume de ce petit personnage, Mannequin Peace en bruxellois, qui veut dire petit homme qui pisse. Ben oui. Et là, il avait grosse envie là. Voilà, mais ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Que je t'aime.
Il est populaire.
Mon Johan Usaï. Johan qui va me faire le plaisir de prendre ce fauteuil demain.
Grosse pression. Hein.
Pas du tout.
Je ne dors
pas du tout.
Nuit, Julien.
Bah non, enfin, il y aura une bonne émission peut-être.
Comment vais-je pouvoir vous égaler, être à votre hauteur?
Arrêtez. Non, je t'ai plus. Merci en tout cas à Johan donc, qui prendra le relais demain. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures dans Soir Info. Merci à tous les amis, à Loubna Daoudi, à Idnes Latrèche qui m'ont accompagné encore une fois aujourd'hui. Passez une belle nuit et à demain avec Johan Usaï dans Soir Info donc.